Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. C'est un jour important après des mois d'audience. Le verdict dans le procès hors normes, historique, tous les superlatifs ont été utilisés pour le procès des attentats du 13 novembre. Des mois pendant lesquels le principal suspect, Salah Abdeslam, n'aura pas du tout condamné les attentats. Il a montré sa duplicité, alors quelle peine, perpétuité incompressible. Et puis nous serons aussi, évidemment, d'abord nous vous raconterons le récit de ces audiences, nous serons avec nos journalistes sur place. Et puis le père d'une victime, Patrick Jardin, le père de Nathalie, tué au Bataclan, qui a tout de suite dit vous aurez ma haine, contrairement à d'autres familles de victimes. Dans l'actualité, une non-poignée de main, ne pas serrer la main d'un député dans l'hémicycle, est-ce un geste anti-républicain? Il témoigne en tous les cas, pour le moins, d'une absence de courtoisie républicaine, dirons-nous. La séquence a beaucoup fait réagir quand le très jeune député France Insoumise, Luc Boyard, a ostensiblement refusé de serrer la main au député Philippe Ballard du RN. Et puis direction dans cette émission Trocadéro à Paris, non loin du Champ de Mars, avec la même problématique. Nous vous en parlions déjà hier de l'insécurité des vols, des trafics, crainte aussi pour les touristes, l'image évidemment de la France. Mais pourquoi une telle impuissance à agir? On posera cette question. Voilà pour le programme. Dans quelques instants, je vous présente nos invités. Mais tout d'abord, place au journal. Bonjour à vous, cher Olivier.
Bonjour Sonia, bonjour à tous. Et on va démarrer avec le pass sanitaire. Va-t-il bientôt faire son retour? La question se pose avec l'augmentation des cas de contamination. Plus de 107 000 cas positifs détectés ces dernières 24 heures. Alors que le masque est pour le moment fortement recommandé dans les transports, doit-on réintroduire le pass sanitaire? On vous a posé la question, écoutez.
Pour moi, le pass sanitaire n'est pas une restriction. C'est une mesure qu'on doit adopter pour se protéger tous.
Bon, aucune envie du retour du pass sanitaire. Ça prive de liberté des personnes qui ne sont pas vaccinées.
C'était rentré dans nos quotidiens, il faut le retourner. Il faut qu'il revienne, c'est tout.
Ça me dérange énormément parce que déjà, je ne suis pas vaccinée du tout et je n'ai pas envie de me vacciner.
Je suis vaccinée, donc voilà. J'ai pas de problème avec ça.
Bien sûr que je le redoute, parce que ça nous limite.
Et toujours à propos de la situation sanitaire, le tribunal administratif de Paris a tranché. Le gouvernement a commis une faute en ne prévoyant pas assez de masques avant la pandémie. Les explications de Reda Emrabit.
La justice française a tranché. L'État est jugé fautif de ne pas avoir stocké suffisamment de masques pour lutter contre le Covid-19. C'est ce qu'a déclaré le tribunal administratif de Paris.
La faute principale qui est reprochée, c'est une gestion comptable des stocks de masques, puisque ceux-ci n'ont pas été renouvelés à la suite des commandes liées à l'épidémie de grippe H1N1 où les masques n'ont finalement pas servi.
Par ailleurs, le tribunal pointe du doigt certaines déclarations qui ont eu pour effet de dissuader la population d'avoir recours à des masques, notamment au moment du premier confinement.
Nous continuons tous à voir beaucoup de personnes dans les rues avec des masques. On peut comprendre leur inquiétude dans cette situation totalement inédite, mais c'est vraiment, je le rappelle, une denrée rare et totalement inutile pour toute personne dans la rue.
Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade.
Cette décision fait suite à une trentaine de plaintes déposées par d'anciens malades du Covid-19. Au début de l'épidémie, la France ne possédait que 100 millions d'unités, pas assez pour lutter efficacement contre le virus.
Ce matin, un incendie s'est déclaré dans le 16e arrondissement de Paris. Un feu d'appartement, rue de Longchamp. 100 pompiers se sont rendus sur place pour maîtriser le feu. Le bilan provisoire de 3 blessés graves et 10 blessés légers. 2 victimes se seraient défenestrées pour échapper aux flammes. Et puis le procès de Jean-Marc Reiser, accusé du meurtre de Sophie Le Tan. C'est le 3e jour aujourd'hui. Les proches de Sophie Le Tan sont auditionnés. Noémie Schulz, bonjour. Vous êtes en direct de Strasbourg. Et Noémie, on l'imagine, la famille détruite par la mort de Sophie Le Tan.
Oui, elle s'approche, chancelante, soutenue par l'interprète. L'effort est surhumain pour la mère de Sophie Le Tan. Elle avait d'ailleurs fait un malaise au premier jour à plusieurs reprises. Elle interrompt son récit. J'ai trop mal, dit-elle en vietnamien. Cette mère qui s'est inquiétée dès les premières minutes de la disparition de Sophie Le Tan, car sa fille, dit-elle, donnait tout le temps des nouvelles. On lui explique, alors qu'elle se rend au commissariat, qu'il faut attendre 48 heures, car sa fille est majeure. Je ne comprends pas pourquoi les recherches n'ont pas commencé tout de suite. Pendant ces deux jours, je me suis écroulée. C'est la famille entière de Sophie qui s'est effondrée ce jour de septembre 2018. Sophie s'occupait de toutes les démarches administratives. Elle travaillait la nuit dans un hôtel pour soulager les finances de ses parents, conseillait son frère très timide, était fusionnelle avec sa petite sœur aujourd'hui en dépression. La famille est comme un phénix qui a perdu une aile et qui vole blessée. C'est la comparaison faite par le père de Sophie. Nous n'avons toujours pas reçu la demande de pardon de l'assassin de ma fille. La salle de l'audience est saisie par ce bloc de souffrance qui s'abat. Les larmes coulent sur les visages, y compris sur celui d'un avocat de la défense. Dans le box, Jean-Marc Reiser baisse son masque et essuie son nez et ses yeux.
Merci Noémie pour toutes ces précisions. Noémie Schulz en direct de Strasbourg. Et puis du procès des attentats de Paris du 13 novembre. C'est également l'actualité de la journée. Sonia, vous en parlez dans un instant avec vos invités. Mais avant l'économie, on va parler de cinéma. La fréquentation est encore en baisse. Éric de Ritmaten.
Votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
Effectivement, c'est la question qui se pose. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite par les professionnels. Le cinéma est peut-être trop cher en cette période d'inflation et du coup, eh bien, la fréquentation a du mal. Elle a même énormément baissé depuis le début de l'année. 62 millions de billets vendus en 5 mois. C'est une baisse de 30% si l'on se réfère aux chiffres de la même période 2019, donc la période d'avant la crise Covid. Donc vous le voyez, 30% en moins sur 5 mois. Alors, les pertes sont énormes. 19 milliards à cause du Covid. Ça, c'est les chiffres qui ont été donnés ce matin. Maintenant, heureusement, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour les exploitants, c'est la fête du cinéma qui va démarrer dimanche. Elle va durer 3 jours jusqu'au mercredi 6 juillet. Et là, il y a vraiment l'espoir de voir remonter la fréquentation dans les salles avec des films qui sont à l'affiche actuellement comme Top Gun ou Elvis. Et puis la sortie du film de Jérôme Commandeur, Irréductible, qui sortira à ce moment-là, qui sort d'ailleurs aujourd'hui. Et il faut rappeler que la fête du cinéma, c'est 4 euros la séance et cela tombe bien en cette période d'inflation.
C'était votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
Et je vous le disais dans la titre, c'est un jour important. Pourquoi ? Parce que cela fait 10 mois que l'on suit ce procès hors norme, historique. Et là, vraiment, le mot n'est pas galvaudé. Tout, d'ailleurs, tous les superlatifs ont été utilisés pour décrire le procès des attentats du 13 novembre, qui arrive donc à son terme. Je vous rappelle, 10 mois d'audience. Les attentats islamistes du 13 novembre avaient fait 131 victimes. C'est un procès qui a charrié beaucoup de douleurs, beaucoup de colère. Il y a eu aussi des moments d'humanité de la part des familles de victimes. C'est une immense salle d'audience qui a été construite pour l'occasion, qui a accueilli près de 400 parties civiles. On va en parler avec nos invités. Georges Fenech, merci d'être avec nous. Bonjour. Consultant pour CNews, ancien magistrat, Maître Carbon de Cèze nous accompagne.
Bonjour Sonia.
Merci d'être là et bonjour à vous, avocat pénaliste. Juliette Méadel, bonjour.
Bonjour.
Merci également de votre compagnie. Élue de Montrouge et ancienne secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes. Évidemment, l'État aux côtés des victimes à ce moment-là, dans ce moment terrible. Elisabeth Lévy nous accompagne. Merci également. Bonjour à vous, Elisabeth, directrice de la rédaction de Causeur. Je disais que tous les superlatifs ont été utilisés et on verra évidemment le plus important aussi, ce sera le verdict. Je voudrais d'abord, Georges Fenech, que l'on comprenne quelque chose, parce qu'en jeu, il y a cette perpétuité incompressible. Qu'est-ce que c'est ? De quoi il s'agit ?
Alors en fait, quand la peine de mort a été abolie, elle n'avait pas été remplacée par l'échelle des peines, il manquait quelque chose. Et ça a été corrigé par le garde des Sceaux à l'époque, Pierre Mégnory, qui a créé cette peine perpétuelle, incompressible, 30 ans maximum. Cela veut dire qu'un condamné, il y en a eu 4 à ma connaissance depuis que cette peine existe, et c'est quasiment que des viols et assassinats d'enfants. Cela veut dire que le condamné ne pourra aucunement sortir de quelque manière que ce soit, quelque permission ou libération conditionnelle, pendant cette période incompressible de 30 ans. Mais au bout de ces 30 ans, un tribunal d'application des peines pourrait, éventuellement, décider d'une libération conditionnelle. Donc ça n'est pas une perpétuité réelle au sens où les Américains l'entendent. Aux États-Unis, vous avez life imprisonment, vous êtes parole, c'est-à-dire plus jamais de sortie possible. Ça existe vraiment aux États-Unis. Hein. Chez nous, il y a toujours ce petit espoir de pouvoir sortir après une très longue peine de 30 ans.
Je voudrais qu'on revienne sur les tenants et les aboutissants de ce procès. Évidemment, on va engager le débat. 10 mois d'audience, 10 mois retour sur ce procès qui a évidemment et heureusement mis en avant, surtout d'ailleurs rarement, un tel procès l'avait fait, les parties civiles et les familles des victimes. Tout cela est résumé par Marie Aubazac.
Jamais autant de places n'avaient été accordées aux parties civiles lors d'un procès. Elles sont 397 à s'être succédées à la barre pour raconter l'horreur.
Me reconnaître en certaines d'entre elles, ça m'a un peu rassurée. Je me suis sentie moins seule sur certaines choses.
Sur le fond du dossier, la salle d'audience n'a pas été le théâtre d'aveux majeurs de la part des accusés.
Pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas voulu aider la justice, ni dénoncer qui que ce soit, ni même donner des précisions sur l'organisation.
Quelle était la mission exacte de Salah Abdeslam? D'où proviennent les kalachnikovs des terroristes? Un attentat était-il prévu le soir du 13 novembre à l'aéroport d'Amsterdam? Des zones d'ombre demeurent. Contre les 20 accusés, des peines allant de 5 ans de prison à la perpétuité ont été requises.
J'espère réellement, et comme ça a été dit, que ces hommes seront jugés à la hauteur de ce qu'ils ont fait et pas à la hauteur de l'événement lui-même, parce qu'effectivement, les assassins ne sont pas dans le box. Moi, j'en ai vu 3 et ils ne sont pas là.
À quelques heures du verdict, certaines victimes éprouvent une part de soulagement. D'autres redoutent la fin d'une période intense d'entraide et de partage.
Alors, pour tout dire à nos téléspectateurs, pendant ce sujet que nous avons suivi avec beaucoup d'attention de Marie Aubazac, nous avions déjà le débat sur le mot que j'ai employé en disant qu'il peut être galvaudé, historique. En fait, ce que je voulais dire, Elisabeth Lévy, on va engager le débat, c'est que c'est la première fois dans l'histoire, évidemment, par l'ampleur des chocs que nous avons suivis, par l'organisation immense, titanesque de ce procès. Et on l'espère, on verra avec le verdict qui aura lieu tout à l'heure.
Mais, si vous voulez, on ne peut pas dire qu'un procès est historique parce qu'on a construit une grande salle, soyons sérieux, ou parce qu'il y a 500 avocats ou je ne sais plus combien d'avocats. Il y a effectivement un très grand nombre de victimes, ce qui explique le gigantisme du procès. Par ailleurs, pourquoi je vous dis que de mon point de vue, l'adjectif historique est un peu excessif? Parce que dans le fond... On n'a pas appris énormément de choses. Bien sûr, la douleur des victimes, je pense qu'aucun d'entre nous n'a appris que quand on perd un enfant, c'est une douleur incommensurable qui ne se guérit jamais, que ce procès soit aussi très utile, ou en tous les cas peut-être réparateur pour les parties civiles, c'est elle de le dire, je n'en disconviens bien pas. Mais un procès historique, c'est un procès où on comprend quelque chose d'historique, et je vous... parler des procès Papon et Barbie, où il a été énormément question de ce qui avait amené là. Et d'un certain point de vue, je me rappelle le procès Charlie. Je me rappelle les propos de Riss sur le terreau. Il avait été très violent sur la France insoumise et sur Mediapart, par exemple, en expliquant toutes les complaisances dans la société française qui avaient pu faciliter, disons, et en tous les cas aider les terroristes, et surtout dans la façon dont Charlie Hebdo s'était retrouvé seul, si vous voulez, avec cette, parce qu'il y avait la question politique des caricatures. Donc je ne dis pas du tout que ce procès est inutile, c'est un procès pénal qui est là pour juger des gens, et là j'attends que nos deux juristes nous le disent, mais non, je
j'entends
ne dirais pas
dites.
Qu'il est historique.
Mais alors, je pose de nouveau la question, mais différemment. Est-ce qu'il y aura un avant et un après? Est-ce que par les répercussions, les conséquences, il y aura le sursaut tant attendu et puis les leçons,
non,
surtout
retenues? Non, je ne crois pas. Moi.
Elisabeth n'y croit pas.
Moi, je crois que c'est un procès historique pour deux raisons. D'abord, il est inédit quand même par sa taille et par la place qu'on a donnée aux victimes. Jusqu'à présent, quand même, dans le procès, les avocats le savent bien... jusqu'à ce que Robert Badinter se charge de ce sujet-là dans les années 80, on donnait beaucoup de place quand même aux accusés. Et c'est d'ailleurs l'un des reproches que j'avais fait avant à la place qu'on avait laissée, notamment à Salah Abdeslam, à tous ses propos. À chaque fois qu'il s'exprime, on en faisait des louches. Là, je
au
trouve
début,
que,
hein,
au tout début, exactement.
Rappelons quand même qu'il reprenait les textes de l'État islamique et que...
Absolument.
Et donc,
effectivement, il y avait eu la même chose au moment du procès, au moment de l'attentat de Toulouse et de Montauban, où on donnait trop de place et que la parole des accusés était trop entendue. Là, je trouve que tout au long de ces 10 mois... On a beaucoup plus entendu les victimes. Et ça, c'est d'abord, c'est fondamental. C'est peut-être aussi un changement dans l'organisation du procès et dans la place qu'on doit donner aux victimes. Aujourd'hui, je trouve, elle a été heureusement renforcée. Deuxième sujet, c'est un procès historique pour des raisons politiques, disons-le. Ce que nous avons vécu en 2015, c'est des attentats d'une ampleur qui était incommensurable, enfin que nous n'avions jamais vécu auparavant. Et donc, il fallait une parole, il fallait un procès, il fallait qu'on puisse aussi mettre en mots ce qui s'est passé. Et contrairement à vous, Elisabeth Lévy, moi, j'ai appris des choses. Sur le profil psychologique des accusés, on voit qu'on n'a pas affaire à des personnes qui ont été traumatisées ou qui ont vécu des choses complètement incroyables, comme ce qu'on aurait pu penser. Et les mots de Zaguri, qui est le psychologue, et qui parle de la banalité du mal, au fond, sont importants.
Alors, on va entrer dans les détails. C'est dans Hannah Arendt, comme nous vous
disons. Non seulement Hannah Arendt, mais y compris au moment du procès Papon.
Oui, bien sûr.
D'accord, on va quand même préciser que Salah Abdeslam, mais on le verra en détail, n'a pas du tout condamné les attentats, qu'il a été d'une duplicité, j'allais dire incroyable, non, peut-être propre à ce qu'il est finalement tout au long du procès. Juste, Maître, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que dans ce procès en particulier, ça a été la mise en avant surtout des parties civiles plutôt que du principal suspect ?
Mais pas plus que d'habitude dans les procès de terrorisme. Ça n'a absolument pas changé. On conserve toujours la même place pour les victimes. Non, je sais que vous avez été secrétaire d'État nommé après ça, mais moi, ça fait 25 ans que je plaide dans des affaires de terrorisme, donc j'ai un certain recul.
Non, mais là, l'attentat a été d'une ampleur incroyable.
Je vais terminer. Puis juste pour préciser, puisqu'on parle du procès, Zaguri n'est pas un psychologue, mais un psychiatre, ce qui est une expertise totalement différente dans un procès d'assises. Non, il n'y a pas eu de modification. Ce qui a changé, c'est le temps qu'on a consacré. Au prorata temporis, vous n'avez pas plus de temps pour les victimes dans le procès du 13 novembre que dans les autres procès de terrorisme. La grande différence, et c'est là que nous avons un point de divergence, c'est que le ministère de la Justice a entendu communiquer à raison de l'émotion générée par les attentats du 13 novembre, le ministère de la Justice a voulu communiquer sur le fait d'être capable d'organiser une seule audience de masse réunissant toutes les victimes, tous les gens qui ont fait l'objet de l'ordonnance de mise en accusation, et a mis les budgets en force de police, en aide juridictionnelle.
Heureusement que l'État est là pour ça,
Oui, heureusement que l'État est là pour ça. Je ne suis pas en train de critiquer, je vous dis que c'est ça qui est inédit, mais sur le caractère historique, on n'a pas appris grand-chose. Je rejoins Elisabeth Lévy. Et pourquoi ? Parce que l'instruction avait déjà révélé ce qu'il y avait à révéler, donc le travail avait été fait. Et puis, il y a un dernier point qui est extrêmement important sur la place de la victime, c'est quel est l'objet du procès criminel ? C'est statuer sur les charges qui pèsent sur les accusés.
Ça, on va en parler, on va entrer dans les détails. Tout d'abord, un rapide rappel des titres et évidemment, on va raconter qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui peut être utile au renseignement ou pas aussi, c'est quelque chose d'important. Tout d'abord, les titres.
Le président russe Vladimir Poutine n'aurait pas déclenché la guerre en Ukraine s'il avait été une femme. C'est ce qu'estimait le Premier ministre britannique Boris Johnson en jugeant souhaitable qu'il y ait plus de femmes au pouvoir. Le déclenchement de cette guerre par la Russie est un exemple parfait de toxicité masculine, a-t-il encore dit. Après la mort de 23 migrants à Melilla, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a promis une collaboration totale de son gouvernement avec les enquêteurs. Des migrants africains avaient tenté de pénétrer dans l'enclave espagnole à partir du Maroc. Le dirigeant socialiste accuse les mafias qui se livrent au trafic d'êtres humains. Enfin, la saison des incendies débute en Californie. Lundi, un immense feu s'est déclaré à Novato. 54 hectares ont brûlé. Le feu a depuis été maîtrisé. L'été dernier, plus de 300 000 hectares avaient brûlé en Californie.
Merci Audrey pour ce titre. On revient à ce procès hors norme dont on attend le verdict. Procès des attentats du 13 novembre. Georges Fenech, Carbon de 16, Elisabeth Lévy, Juliette Madel, je vais vous donner la parole. Vous allez réagir. Chacun veut opposer à l'autre des arguments précis. Je voudrais qu'on écoute évidemment les familles de victimes. Et c'est quelqu'un qui a une voix, je vais dire, particulière. Pourquoi ? Parce qu'il a été pris à partie sur son attitude, parce qu'il a d'emblée dit, Patrick Jardin, contrairement à d'autres, « Vous aurez ma haine ». Vous vous souvenez de ce texte, « Vous n'aurez pas ma haine ». Non, lui, il a dit « Vous aurez ma haine ». Pourquoi ? Parce que l'inverse de la haine, c'est l'amour. Voici ce qu'il dit précisément, je ne voudrais pas dénaturer ses propos, mais quel est le contraire de la haine ? C'est l'amour. Et comment aimer ceux qui ont tué votre enfant ? Je sais, beaucoup critiquent ma position, mais peu importe, je l'assume. Il l'a dit à la barre très clairement. Il est avec nous en direct. Bonjour à vous. Merci d'être là, Patrick Jardin. Évidemment, c'est un jour très important. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment précis, quelques heures avant le verdict ?
Bonjour. Ben, écoutez, de toute façon, je pense que ce procès que certains qualifient de procès du siècle, je pense qu'on est passé complètement à côté. C'est-à-dire que, comme disait tout à l'heure Elisabeth Lévy, d'énormes zones d'ombre continuent à peser sur ce procès. On ne sait pas qui a donné les ordres, par exemple, d'interdire aux forces de sentinelles qui étaient présentes devant le Bataclan et d'interdire d'ouvrir le feu. Ça, personne n'en a parlé. On ne sait pas qui a rappelé les gendarmes du 31-7 de Reims qui avaient formé colonne et qui s'étaient introduits et qui ont extirpé un otage du Bataclan et qu'on a rappelé en catastrophe. Toutes ces choses-là, personne n'en a parlé. On a évité de faire intervenir M. Georges Fenech, qui était quand même président de la commission parlementaire. On l'a soigneusement écarté. On a soigneusement écarté également messieurs Valls et Le Drian, qui avaient, à mon avis, beaucoup de choses à nous dire. Quant à monsieur Hollande, quand il est passé au tribunal, on nous a interdit de lui poser des questions. Moi, je pense que le président Périès est sûrement un très bon juriste. Hein, il est techniquement très fort, mais je pense qu'il est passé complètement à côté de son procès. Alors, volontairement ou pas, ça j'en sais rien. Je pense que il a dû subir des pressions pour que effectivement on n'inquiète pas trop les politiques dans cette histoire, alors que pour moi ils sont carrément responsables de ce qui s'est passé. Et je pense également que on lui a dit de prendre des gants avec les islamistes qui étaient présents dans le box, parce que quand on voit la différence d'élocution lorsque moi je suis passé à la barre et la différence d'élocution qu'il a avec les islamistes, je me dis que finalement il vaut peut-être mieux être accusé que d'être plaignant.
Patrick Jardin, vos propos sont, percutants. Ils ont fait déjà beaucoup réagir sur ce plateau. D'abord, Georges Fenech, parce que vous avez parlé de lui. Qu'est-ce qui s'est passé, Georges ? Pourquoi vous n'êtes pas intervenu compte tenu de votre expérience et de tout ce que vous savez sur le sujet ?
Et j'étais prévu, effectivement, au départ, non pas par le parquet, mais par les parties civiles qui avaient souhaité mon témoignage, que j'ai évidemment accepté. Et puis, on m'a fait savoir que, par manque de temps, il fallait réduire le maximum d'auditions de témoins. C'est vrai qu'il y avait eu des retards, avec notamment le Covid. Et que donc, mon audition, on pouvait peut-être s'en passer. Donc, moi, j'ai respecté.
Georges, qui est ce « on » qui vous
a fait savoir ? J'ai respecté la volonté du président de la cour d'assises et des magistrats et des avocats, donc je ne suis pas venu. Mais attention, ce n'était pas le procès de l'État et des services de l'État. C'était bien le procès des accusés qui étaient dans le box. Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est un procès historique. En tout cas, c'est un procès essentiel et très important. Il y a eu un avant et un après 13 novembre, c'est sans doute pas l'épilogue d'ailleurs du procès judiciaire, il y aura probablement un appel, on peut l'imaginer, mais c'est déjà important pour ce soir. Ma pointe de regret, au fond, de ce procès, c'est que, par la force des choses, il n'y avait pas les doctrinaires, il n'y avait pas les donneurs d'ordre, il n'y avait pas les penseurs de cette idéologie mortifère islamiste, pour la raison qu'ils ont été abattus sur les théâtres de guerre, que ce soit al-Baghdadi, al-Souri. Et donc cette dimension, parce qu'au fond, dans le box, on a certes des responsables, mais ce n'étaient pas les gens de haut niveau, ce n'étaient pas ceux qui avaient programmé ces attentats, voyez-vous. Donc c'est ça. Au procès de Nuremberg, vous aviez Göring, vous aviez les penseurs du nazisme qui étaient là. C'est cette pointe de regret, c'est qu'on n'ait pas vraiment fait le procès de l'idéologie aussi islamiste.
Mais on ne se trompe pas sur le banc des accusés. Ce sont, en tous les cas, le verdict est attendu. C'est le procès du terrorisme islamiste. Ça n'empêche pas qu'on puisse poser des questions sur l'organisation, sur l'État, sur la lutte contre, je pense, le terrorisme et comment renforcer notre renseignement. C'est ce que dit aussi Patrick Jardin. Ils n'ont pas voulu. Donc, Patrick Jardin, et je me fais le relais de votre question que j'adresse à Juliette Méadel. Et merci de rester avec nous. On vous écoute, Madame Méadel.
Le procès, quand même, était, je trouve, le président Périès était très je trouve très mesuré, très pondéré. Je trouve qu'il a été humain. C'est-à-dire que les témoignages de toutes les victimes, moi j'ai participé à quelques-unes des auditions, ça a été vraiment, il a été très respectueux, très respecté. Et je trouve qu'il a fait un travail remarquable. Il faut le dire quand même, hein, parce que c'était pas facile d'organiser un procès avec autant de parties civiles et de le faire sur un aussi long terme. Il n'a pas refusé, évidemment, les convocations, notamment de François Hollande, puisque les parties civiles, et c'est une association de victimes qui a demandé à ce que François Hollande puisse venir témoigner, et il lui a été posé des questions par le président Périès sur, justement, l'organisation de la sécurité, les renseignements, et le président Hollande a répondu avec toutes les informations qu'il avait à sa disposition, et il l'a fait vraiment de la façon la plus transparente possible. Il l'avait prêté serment.
Sauf que les parties civiles n'ont pas eu le droit.
Même, il l'a fait alors même que, comme vous l'avez rappelé à juste titre, Sonia, ça n'était pas le procès de l'État. La commission d'enquête parlementaire qui a été présidée par Georges Fenech, c'était ça son rôle.
Ah, d'accord, mais ça n'empêche pas de poser des questions.
Et ça a été fait.
Patrick Jardin, vous entendez ce qui est dit ? Comment vous réagissez ?
Non, mais je ne peux pas être d'accord avec ces propos pour la bonne et simple raison qu'effectivement, le président Périès a pu poser des questions à François Hollande, mais ce n'était pas François Hollande qui a demandé la comparution. C'est pas le président Périès plutôt qui a commandé la comparution de François Hollande. Ce sont les partis civils. Et ça, on a interdit les partis civils de poser des questions sous le prétexte que la défense s'opposait à la comparution de M. Hollande. Et donc, la Cour s'est retirée et a délibéré. Et ils sont revenus 2 heures après en nous disant « Effectivement, on va laisser M. Hollande comparaître, mais vous n'aurez pas le droit de poser des questions. »
Patrick Jardin, quelles questions ?
C'est un peu fort de café quand même.
Dites-nous quelles questions vous lui auriez posées si cela avait été possible.
Moi, je lui aurais demandé qu'on nous dénonce carrément l'identité des gens qui ont failli dans ce drame qui ont quand même coûté 131 morts et 485 blessés, notamment les ordres qui ont été donnés de ne pas ouvrir le feu, les ordres qui ont été donnés de faire demi-tour alors que les gendarmes étaient rentrés, et puis alors la chienlit au niveau des forces d'intervention entre l'ABI, la BRI, le RAID, plus personne ne savait quoi. Alors je peux comprendre aussi que ce soit très compliqué parce qu'ils ont été surpris. Encore que M. Cazeneuve nous a dit qu'ils savaient, mais qu'ils n'ont rien fait, comme M. Hollande d'ailleurs. Bon, moi je ne peux pas entendre ça. Je suis père d'une fille qui a été massacrée au Bataclan. Il m'est impossible d'entendre. On savait, mais on n'a rien fait.
Patrick Jardin, ce qu'on va faire, parce qu'on respecte d'abord éminemment votre douleur, et c'est ça aussi, on veut comprendre aussi la manière avec laquelle vous avez dit vous aurez ma haine, parce que c'est une manière aussi de traverser cette terrible épreuve, Elisabeth, que vous allez nous expliquer, en tout cas nous présenter. On va marquer une courte pause, je vous prie de rester avec nous, on va tous pouvoir réagir en direct sur ce plateau, à tout de suite. On va reprendre notre débat animé. Patrick Jardin est toujours avec nous en direct, évidemment, nos invités. Tout à part le court rappel des titres.
La Russie est une menace directe pour la sécurité des pays de l'OTAN. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'Alliance à l'ouverture du sommet de l'OTAN à Madrid, en insistant que c'est un sommet historique face à la crise sécuritaire la plus sérieuse depuis la Seconde Guerre mondiale. Un important incendie s'est déclaré ce matin dans le 16e arrondissement de Paris. C'est un feu d'appartement rue de Longchamp. 100 pompiers sont mobilisés. Le bilan provisoire est de 3 blessés graves et 10 blessés légers. Enfin, après 89 ans de bons et loyaux services, l'horloge parlante ne répondra plus le 1er juillet prochain, c'est-à-dire vendredi. Dans les années 90, le 36-99 traitait encore plusieurs millions d'appels par an avant de perdre peu à peu ses fidèles pour ne plus représenter qu'une dizaine de milliers d'appels à l'année.
Bien, nous sommes avec nos invités, Georges Fenech, Maître Carbon de Cesse, Juliette Méadel, Elisabeth Lévy, Patrick Jardin qui était avec nous en direct également et à distance. On va simplement rejoindre rapidement la cour d'assises spéciale de Paris. Notre spécialiste pour les justices s'y trouve, Sandra Buisson. Sandra, on vient d'entendre Patrick Jardin le dire et puis nos invités ici, c'est un fait. Il y a beaucoup de points qui n'ont pas été éclaircis, évidemment, dans ce procès et pas des éléments négligeables. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, effectivement, et c'est ce qu'a déploré l'avocate générale dans son réquisitoire. Toutes ces questions qui nous taraudent, elles ont une réponse. La réponse est dans le box. Plusieurs accusés savent, ils savent presque tout, mais ils ont choisi de se taire. Et c'est vrai que le silence s'est propagé chez trois accusés majeurs dans ce procès qui ont refusé de répondre aux questions sur les faits. Ajoutez à cela les pressions dans le box de Salah Abdeslam sur Mohamed Abrini pour qu'il n'en dise pas trop. Et vous avez des questions cruciales qui resteront à l'état d'hypothèse. D'abord, les enquêteurs pensent qu'un attentat a été prévu le vendredi 13 au soir à Amsterdam, à l'aéroport, en même temps qu'un attentat aurait eu lieu et devait avoir lieu à Roissy. Il aurait été perpétré par Abdelhamid Abaoud et Chakrib Akrou après la tuerie des terrasses, mais on ne saura jamais avec certitude ce qui était prévu puisque les deux accusés qui étaient à Amsterdam ce soir-là ont refusé de répondre aux questions. Autre point clé, est-ce qu'il devait y avoir quatre tueurs au Bataclan ? Les enquêteurs le pensent. Ils pensent que c'est la défection de Mohamed Abrini la veille des attentats qui a désorganisé le commando. On ne saura pas non plus ce qui était prévu dans le métro. Enfin, la fourniture des armes restera aussi un point aveugle. La filière d'approvisionnement n'a pas pu être remontée.
Un mot, c'est très important, Sandra, sur la dualité de Salah Abdeslam. On en parlait avec Juliette Méadel. Dans les premiers jours, il relayait les textes de l'État islamique. Il a beaucoup provoqué, joué sur cette ambivalence. Il a aussi pleuré quand il évoquait la souffrance de sa mère, mais pas un mot pour condamner les attentats.
Oui, c'est vrai que Salah Abdeslam a beaucoup évolué pendant ce procès entre l'accusé des premiers jours qui sortait de 6 ans de détention à l'isolement, qui était tempétueux, qui se disait combattant de l'État islamique, qui légitimait le combat de l'État islamique et la charia. Il a multiplié les provocations, vous l'avez dit, les refus de répondre, les réponses elliptiques, pour en arriver en avril dernier au dernier interrogatoire à donner des explications qu'il n'avait jamais données jusque-là. Cette évolution, le psychiatre qu'il a examiné en novembre l'a souligné. Il explique qu'il y a une ambivalence en lui. Il présente ses excuses aux parties civiles au mois d'avril, leur demande de le détester avec modération, pleure, vous l'avez dit, quand il parle de la souffrance de sa mère, mais sur le fond, il ne condamne pas les attentats ni les kamikazes. Il y a un débat en lui, a dit le psychiatre, comme s'il oscillait entre l'humanité qu'il revendique et son maintien dans l'engagement djihadiste. Alors oui, maintenant, il peut évoluer, mais c'est à lui de prendre la décision. Soit il s'enferme dans son armure totalitaire, soit il la quitte pour se réhumaniser, redevenir, je cite, le petit gars de Molenbeek. Mais il y a un risque suicidaire et dépressif.
Merci beaucoup, Sandra Buisson, pour toutes ces précisions. Patrick Jardin, vous êtes toujours avec nous en direct. Je vais revenir vers vous dans quelques instants. Elisabeth Lévy, vous voulez réagir sur un autre aspect aussi important,
sur plusieurs
médiatique
aspects,
et la presse.
Sur plusieurs aspects, parce qu'on dit que, alors, il y a les zones d'ombre que vous avez évoquées, c'est-à-dire les donneurs d'ordre, les doctrinaires, mais il y a beaucoup de livres aussi qui nous parlent de ces donneurs d'ordre et de ces doctrinaires, et on commence à connaître beaucoup de choses sur la mouvance djihadiste. En revanche, moi, je pense qu'il y a des zones d'ombre sur notre désarroi, sur les responsabilités de la société française, c'est-à-dire sur notre désarmement intellectuel et moral face à l'islamisme, pas seulement face au djihadisme, face au terreau idéologique qui ne concerne pas seulement la minorité djihadiste. Il y a un déni permanent, on nous explique en permanence que ce sont de toutes petites minorités, etc., ceux qui prennent les armes, heureusement, mais il y a une idéologie, il y a une forêt qui cache ses armes. Et je voudrais quand même rappeler que Patrick Jardin a été insulté d'une façon absolument scandaleuse par Le Monde, qui a décidé qu'il y avait des bonnes victimes. C'était les victimes gentilles qui voulaient la réconciliation, comme l'a dit Madame Garrido, avant de se d'ailleurs rétracter, de s'excuser. Il faut bien le souligner. Et il y avait des victimes méchantes, des victimes, islamophobes. Je crois que le mot avait été écrit par Le Monde, parce que il faudrait qu'en plus Patrick Jardin soit un amoureux de l'islam, je suppose. Et je trouve, si vous voulez, que tout ça qui était en jeu dans le procès Charlie, et vous avez cité le procès de Nuremberg, on a appris beaucoup de choses sur le nazisme au procès de Nuremberg. Tout ça avait été évoqué au procès Charlie. Là, effectivement, c'est le but d'un procès pénal. Maître Carbon de Cesse l'a rappelé, c'est de juger des accusés. Mais puisqu'on nous parle, je trouve l'autocongratulation, si vous voulez, de l'État depuis ce matin. J'entends toutes les unes des journaux, on a fait un super procès, bravo. C'est le moins qu'on puisse faire dans une démocratie, on fait des procès. Il n'y a pas de quoi, si vous voulez, se tresser des lauriers, car nous sommes toujours...
Mais qui le fait, là ?
Non, je ne parle pas de vous, je dis depuis ce matin, les unes de la presse, les unes... J'entends les journaux, comme c'est merveilleux, nous sommes une démocratie. démocratie, nous sommes contre la barbarie. Tout ça, c'est des mots. Et nous n'avons pas avancé d'un poil, si vous voulez, ou très peu, dans notre combat idéologique contre l'islamisme. Donc, je trouve, si vous voulez, j'ai envie de dire ma solidarité avec Monsieur Jardin. Voilà.
Et toutes les familles victimes. Oui.
Non, moi, ce que je veux dire ici, c'est surtout que pour nos enfants, j'ai 4 enfants, vous avez tous des enfants ici, ce qui est important, c'est ce que dit ce procès pour l'avenir. C'est le message qu'il dit sur ce qui s'est passé en France. Et qu'est-ce qu'il dit, ce procès ? Il dit, eh bien, en France, face à l'islamisme fondamental, nous opposons des règles démocratiques. Nous opposons un procès où nous respectons les droits de la défense. Nous opposons un procès où on écoute tout le monde, où on donne le temps qu'il faut pour que tous les témoignages qui permettent de faire jaillir la vérité puissent être entendus, et que les victimes, que certaines disent, comme ça avait été le cas il y a 2 ans, vous n'aurez pas ma haine, que certaines disent, vous aurez ma haine, mais c'est bien naturel. Chaque victime a bien le droit.
Sauf qu'une partie de la presse, c'est vrai.
Non, mais attendez. Non, mais bon, que chaque victime exprime ce qu'elle ressent, c'est bien naturel. Mais ce qui compte, c'est le discours qui est tenu. C'est d'abord le discours politique. Moi, je suis élue, j'ai été ministre au moment des attentats. Et donc, c'est le discours de la réconciliation qui est indispensable si on veut avancer.
Mais avec qui ?
Deuxièmement, c'est le discours de la fermeté à l'endroit de la lutte contre l'islamisme fondamental. Et à cette enseigne, les gouvernements précédents et celui-ci mettent plus de moyens. Et troisième sujet, c'est surtout le discours de l'explication et des règles.
Avec qui on se réconcilie ?
Non, mais avec personne. Il faut être très clair. L'objet du procès, vous l'avez très bien dit, évidemment, Monsieur Jardin a tout à fait le droit de ne pas vouloir pardonner aux assassins de sa fille. C'est un droit fondamental et ce n'est pas l'objet du procès que de se pardonner mutuellement des drames que chacun a vécu. Le procès n'a même pas cette ambition-là. Le procès, il a pour ambition de statuer. Et de statuer sur 2 choses. La culpabilité des accusés et le préjudice des victimes. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais vous dire très, très respectueusement, Monsieur Jardin, qu'il ne faut pas être surpris de ne pas comprendre. C'est une erreur commune des parties civiles de dire « j'assistais au procès pour comprendre, je n'ai pas compris ». Pourquoi ? Parce que les services spécialisés qui viennent témoigner de leur enquête ne viennent pas témoigner de leur vue de la situation, par exemple, sur l'islamisme. Pourquoi ? Ils viennent parler de l'enquête techniquement, pour éclairer la cour sur la façon dont ils ont
enquêté. Il y a eu d'autres spécialistes, Carbon de Cèze.
J'entends. Sur l'islamisme. Mais aucun spécialiste ne fournit d'informations sensibles au procès, contrairement à l'instruction. Pourquoi ? Parce qu'au procès, il y a les accusés qui peuvent répercuter, ceux qui sont encore membres d'organisations terroristes qui peuvent répercuter, et surtout, il y a des espions des organisations terroristes qui assistent aux audiences. C'est la seule raison pour laquelle on ne livre jamais une information sensible.
On entend, Carmen, mais je vais donner la parole à Patrick Jardin. La question, c'est aujourd'hui, après toutes ces années et après ces 10 mois d'audience, est-ce qu'on sait pourquoi, en France, il y a eu 131 victimes un soir du 13 novembre ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Ça, on le doit quand même. On le doit à tous. Pour que ça ne se reproduise jamais.
C'est à la commission d'enquête parlementaire d'éclairer les citoyens, mais ce n'est pas l'objet du procès pénal.
Mais on a tort.
Allez-y, et Patrick Jardin juste après.
Ces accusés-là ne connaissaient pas leurs victimes. Ils n'ont pas choisi leurs victimes. Ils ont frappé de manière aveugle qui, à travers ces malheureuses victimes, notre société, la France, qui était belligérante sur le territoire État islamique. Mais si l'idéologie en fait islamiste a été combattue sur le terrain par nos armées, avec la coalition qui a défait l'État islamique sur le plan territorial. Mais attention, l'idéologie est toujours là. Et c'est là que je veux rejoindre l'argumentation d'Elisabeth Lévy. Je pense qu'on a trop longtemps sous-estimé cette idéologie et ce terreau qui le favorisait. Rappelez-vous, le premier djihadiste français, c'était Khaled Kelkal en 1995. C'était les attentats du RER Saint-Michel. Mais entre 1995 et 2012, la France a été épargnée de tout attentat. 2012, Mohamed Merah. Mais on a perdu beaucoup de temps parce qu'on a laissé prospérer ce terreau qui a abouti à tout cela. Et ensuite, entre 2012 et 2015, on a encore perdu beaucoup de temps. Et j'ajoute même, entre janvier 2015 et novembre 2015, on a perdu aussi du temps.
Alors quand est-ce qu'on a rattrapé ce temps perdu?
Je ne dis pas qu'on n'a rien fait, attention, il y a des choses qui ont été faites. Mais je crois qu'on a sous-estimé et ça nous a explosé. Mais à la décharge de tous ceux qui ont dirigé les affaires de nos pays. Je vais reprendre une formule de Juliette Médel que j'avais remis textuellement, si elle me l'autorise, dans le rapport. C'est qu'elle l'avait dit avec beaucoup de lucidité et de courage politique à l'époque, nous n'étions pas prêts. C'est-à-dire que personne ne pouvait imaginer un 13 novembre. Et donc, vous êtes d'accord, hein, c'était votre formulation, je l'avais
précisé.
Nous n'étions pas prêts parce que nous ne pouvions pas imaginer un tel massacre d'innocents, le plus grand nombre de victimes depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc je crois qu'on a eu, on a sous-estimé ce qui était en train de se passer.
Il n'y avait pas eu Nice avant, c'est après.
Ce que dit Georges Fenech est très important. Je suis venue témoigner sur la situation de l'aide aux victimes. Et c'est vrai que sur l'aide aux victimes, nous n'étions pas prêts. D'ailleurs, il n'existait pas de secrétariat d'État chargé de l'aide aux victimes.
Dommage qu'on l'ait supprimé d'ailleurs.
Absolument. À la fin du mois de novembre, ce secrétariat d'État n'existait pas. Et donc, l'État n'était pas en mesure d'organiser le soutien.
Là, on est dans l'après, Juliette.
Donc là, on est dans l'après. Sur le pourquoi on en est arrivé là, je l'ai beaucoup développé dans mon livre. Vous l'avez fait aussi au moment de la commission d'enquête parlementaire. Oui. L'appareil de sécurité de l'État avait été, notamment du temps de Nicolas Sarkozy, démantelé. Parce qu'avec la révision générale des politiques publiques, vous le dites notamment.
Merci de laisser dire ça.
Non, mais attendez. Là, c'est
de la politique politicienne.
Je vais juste finir.
Vous comprenez pourquoi il n'y a pas eu de débat à l'occasion du procès.
Je vais juste terminer. Est-ce que je peux juste finir ma phrase?
Oui.
Ça n'est pas du tout la responsabilité de Nicolas Sarkozy. Je dis que ça fait 25 ans qu'on cherche à réformer l'État et que nous avons pris, enfin nous, pas moi, que des mauvaises décisions avaient été prises en termes de renseignement. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est Georges Fenech.
Est-ce que c'est une question de renseignement, de police ou d'idéologie qu'on regarde en face?
Et pas seulement vous.
Tous nos protocoles étaient datés d'une époque du terrorisme des années 80, du GIA, etc., où il y avait toujours quelque chose à discuter. On prenait des otages, on négociait, etc. On n'a pas vu que le terrorisme avait changé de nature. On n'avait plus rien.
On n'a pas voulu voir. La question
On frappe, on tue et on meurt en kamikaze. Et on n'était pas prêt pour ça.
On n'a pas vu, on n'a pas voulu voir. Patrick Jardin.
Je ne crois pas qu'il y ait une volonté. Franchement, les pouvoirs publics ont
tout.
Depuis tout à l'heure, j'essaie de lui donner la parole.
Je ne mets personne en cause. Je parle depuis 1995. Vous voyez, ça recouvre plusieurs. Nos procédures étaient obsolètes.
Georges Fenech, il ne s'agit pas de mettre sur le banc des accusés des responsables politiques, mais il y a des responsabilités quand même. Sinon, on ne comprend rien à ce qui s'est passé.
On les a pointés à la commission d'enquête.
Ben oui. Alors, Patrick Jardin.
Alors, moi, j'ai plusieurs choses à dire, notamment à Monsieur Fenech et à Madame Méadel. Monsieur Fenech, d'ailleurs, que je remercie pour l'excellent travail qu'il a fait avec la commission parlementaire. J'aurais aimé y participer, mais bon, je n'y ai pas été convié, mais bon, ça, c'est pas très grave. Je peux pas le laisser dire que le président Périès a refusé sa convocation pour un problème de temps, parce qu'on s'est tapé des heures et des heures de soi-disant experts belges, dont un nous a dit oui, on a saisi les portables des djihadistes, mais on les a pas étudiés. Et à côté de ça, des témoignages importants comme celui de Monsieur Fenech ou de Monsieur Scarsini, non, on s'en passe. C'est un truc que je comprends pas. Madame Méadel, Madame Méadel, moi j'ai appris que vous aviez 4 enfants et je vous en félicite. Moi j'en avais que 2, il m'en reste plus qu'un. Imaginez-vous seulement une fois qu'un de vos enfants subisse ce que ma fille a subi. Je ne sais pas si vous pourriez vous aussi pardonner. Ça, je me pose la question. Et alors la deuxième chose que je voulais simplement vous dire, vous avez l'air de dire en faisant un peu de politique politicienne que tout ce qui était arrivé, c'est à cause du démantèlement par Nicolas Sarkozy de nos services. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Pour la bonne et simple raison, c'est que M. Squarcini m'a assuré que ses services avaient fourni à M. Valls l'entièreté des noms des djihadistes qui avaient commis ces attentats et que M. Valls avait refusé d'étudier cette liste pour la simple et bonne raison qu'elle avait été effectuée avec les services de Bachar el-Assad. Et ça, pour moi, c'est pas la faute de M. Sarkozy, c'est l'entièreté de la faute de M. Valls. Alors, c'est vrai que j'ai bien compris que le procès du 13 novembre n'était pas le procès des politiques, mais maintenant que ce procès est terminé, moi, je vais m'employer à attaquer les politiques, parce que j'estime que tous ceux qui ont participé de loin ou de près, que ce soit M. Hollande, M. Cazeneuve, M. Valls ou M. Le Drian, ont de très lourdes responsabilités et j'emploierai même, on se demande parfois si c'est pas de la compromission vis-à-vis de ces attentats.
Le mot est là, il est très fort. Là, c'est une accusation directe, Patrick Jardin. Moi, ce que je voulais, en tout cas, c'est... Vous l'assumez, j'entends, mais je me permets de la relever et de le dire. En tout cas, je voulais vous remercier. Je vais laisser Juliette Méadel vous répondre en direct, vous remercier, parce que c'était important aussi d'écouter ce que vous avez à dire et d'écouter une famille de victimes, un petit
peu,
qui dit bah, « vous aurez ma haine ».
Je comprends évidemment ce que vous avez vécu. Beaucoup de victimes du 13 novembre avec qui j'ai parlé sont bouleversantes et vraiment, je comprends. Et vous avez raison, ce que vous avez vécu est insupportable et insoutenable. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ne croyez pas que, en tout cas moi, je ne mettrai jamais en cause des présidents de la République ou des ministres, qu'ils soient de gauche ou de droite, et encore moins Nicolas Sarkozy, en ce sens qu'aucun n'a voulu ou n'a laissé faire cette abomination. Ce que j'expliquais juste, monsieur, c'est que ça fait 25 ans que la France essaie d'améliorer son système de sécurité et qu'elle ne l'a pas fait comme il fallait et que ces attentats sont donc, comme je l'ai dit à maintes reprises, sont donc une faillite de l'État. C'est une évidence. L'État est là pour protéger, les attentats ont eu lieu. Donc c'est une faillite de la mission de protection de l'État. Nous sommes tout à fait d'accord avec ça.
Les chefs de service l'ont dit, d'ailleurs.
Les chefs de service l'ont dit. La DGSE l'a dit, M. Cavard, l'a dit sur les failles du système de sécurité, sur les failles du système de renseignement. Tout le monde l'a reconnu. Mais tout a été mis en œuvre, d'abord pour essayer de réparer ce qui est irréparable, mais voilà, avec l'aide aux victimes, et ensuite pour tenter d'améliorer la fiabilité de nos systèmes de renseignement.
Juliette Méadel, il y a quand même deux discours parallèles, si je puis dire. Vous n'allez pas sur certains points, je crois que c'est ainsi.
Par exemple, M. Cazeneuve comme M. Hollande nous ont dit qu'ils savaient, mais qu'ils n'ont rien fait. S'ils savaient, la première des choses à faire, c'était déjà de bloquer nos frontières. Pour la bonne et simple raison, c'est que tous les djihadistes qui ont commis les attentats venaient de Belgique. Donc ça, c'était la première des choses à faire.
Patrick Jardin, en tous les cas, merci. Merci d'avoir témoigné. Je suppose que, évidemment, c'est une journée très importante qui est chargée en souvenirs, en douleurs. Et on verra à la fin de cette journée quel sera le verdict. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt, Monsieur Jardin.
Merci, avec plaisir. Merci.
On va continuer, évidemment, à parler de différents points. Le rappel des titres, simplement.
Les 27 approuvent la fin des moteurs thermiques en 2035 au profit de véhicules 100% électriques. Cela doit contribuer à atteindre les objectifs climatiques du continent, en particulier la neutralité carbone à l'horizon 2050. En Ukraine, après le bombardement d'un centre commercial à Kremenchuk, la Russie persiste à dire qu'elle ne visait pas ce centre commercial. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a suggéré au Conseil de sécurité de l'ONU d'envoyer une commission d'enquête pour prouver que le centre commercial a bien été détruit par un missile russe. Enfin, à Bombay, en Inde, au moins 19 morts dans l'effondrement d'un immeuble provoqué par la mousson. Le bâtiment de 4 étages s'est effondré lundi soir, peu avant minuit. Les pluies de mousson qui s'abattent de juin à septembre en Inde provoque fréquemment de tels effondrements.
Je voudrais qu'on écoute Maître Samia Maktouf parce que c'est important aussi d'écouter les avocats des parties civiles. Et puis on écoutera, et ça m'intéresse aussi d'avoir vos avis, l'avocate de Salah Abdeslam. On s'est beaucoup intéressé à elle parce qu'il y a jeune avocate lui a été posée. Elle a eu cette phrase à un moment qui a provoqué énormément de crispations. Et puisque ça, je vous dirai de quoi il s'agit. Mais tout d'abord, Maître Samia Maktouf.
L'occasion a été donnée aux accusés de répondre, sauf malheureusement une très grande partie de la vérité est restée dans le box et nous n'avons eu droit qu'à une partie de la vérité. Mais pour autant, il faut quand même rappeler que plusieurs années, 5 années d'instruction ont permis de faire avancer cette enquête. Aujourd'hui, je considère que la Cour dispose d'un dossier suffisamment ficelé, suffisamment documenté pour permettre une décision équitable, que ça soit une réponse d'état de droit.
Voilà. Voilà ce que disent les avocats des parties civiles.
Oui, mais elle a évidemment raison, si vous voulez, que nous soyons dans un état de droit. Si vous voulez, on ne va pas s'en féliciter tous les jours. Heureusement qu'on est dans un état de droit. La France est une vieille démocratie. On ne va pas se féliciter tous les jours de faire des procès qui se tiennent bien. Si vous voulez, c'est très bien. Je le répète, si vous voulez, au-delà Je pense que ramener la question à une question de sécurité, de service de sécurité, c'est se voiler la face.
C'est l'idéologie pour vous, on l'a compris.
Vous
pensez qu'il n'y a pas eu de sursaut depuis, pas de réveil, pas de changement?
Alors, je ne pense pas, parce qu'à chaque fois qu'il y a des manifestations, vous savez, il y a un médecin qui a été égorgé devant ses enfants. À Marseille, il y a un mois
militaire,
ou deux, un médecin militaire allemand, Gervais. Qui en a parlé? Alors c'est vrai, il a eu le tort de ne pas mourir sur place et de mourir 15 jours après, ce qui est... Non mais je dis ça sans signer, je dis simplement que le fait que... Donc l'émotion est un peu transposée. Mais surtout, on nous explique toute la journée, si vous voulez. Moi je me rappelle la phrase d'Abdennour Bidar, il faudrait un jour s'interroger sur la forêt qui cache de telles armes. Après l'attentat de Charlie, nous avons découvert qu'il y avait en France, d'accord, une partie de la jeunesse française, d'accord, qui... haïssait la France au point de refuser de commémorer ces attentats, de refuser de saluer les victimes, d'approuver les terroristes.
C'est le terreau.
Cette chose ne s'est pas améliorée. Dans les écoles...
Gilles Kepel parle
de djihadisme d'atmosphère. Dans les écoles, on entend toujours des horreurs. Or, quand on ramène cela à une pure question de sécurité, si vous voulez, évidemment, toutes ces questions d'éducation, d'immigration, d'intégration complètement ratées sont complètement occultées. Voilà.
Non, des éléments des faits, hein, il faut répondre à ça par des faits précis. La législation a changé. Par exemple, aujourd'hui, il y a des préfets qui obtiennent le renvoi de prêches qui sont des prêches tenues par des personnes qui ont une idéologie salafiste et qui sont des menaces pour la République. Donc maintenant, on réussit à les renvoyer, quand ils ne sont pas français évidemment, on réussit à les renvoyer ailleurs qu'en France. Donc il y a des décisions qui sont prises tous les jours, les services de sécurité, les services de l'État, les services de renseignement sont à pied d'œuvre. La législation a évolué. Alors, je ne dis pas que tout est parfait, mais vous ne pouvez pas dire que la France n'a rien fait depuis ces attentats et qu'aucune leçon n'a été tirée sur le plan de notre organisation politique et sur le plan de la lutte contre l'islamisme djihadiste. Là, vous, je suis désolée de vous dire, mais vous, vous dites l'islamiste fondamentaliste. Ce que vous dites est totalement
faux. Vous rappelez le reportage à Roubaix ?
Ça n'est pas les faits. Voilà.
Vous rappelez le reportage à Roubaix ?
Moi, je vous parle de ce qui se passe en vrai.
Ah bon, à Roubaix, ça se passait pas en vrai.
Je vous parle des décisions qui sont
prises. Non, mais bien sûr, vous possédez les faits, vous détenez les faits, et les autres sont des menteurs. Excusez-moi,
mais personne ne dit ça.
En réalité, dans votre disputation, on comprend, et je le dis sans ironie, pourquoi les questions de fond ne sont pas abordées dans un procès. Il y a énormément d'acteurs dans le procès pénal, et spécialement dans un procès de masse. Toutes ces querelles sur la responsabilité de l'État, dans quelle mesure la responsabilité de l'État, à partir de quand la responsabilité de l'État, éloignent la concentration du président et des jurés sur la question qu'il aurait posée. Est-ce que vous avez une intime conviction sur la culpabilité des accusés? Tout ce qui environne est important. D'ailleurs, les avocats généraux ne s'y sont pas trompés dans leur réquisition, les trois avocats généraux. Donc ce n'est pas une question qui est évacuée, mais c'est une question qui est évacuée. Des débats, pourquoi? Parce qu'on concourt tous à la manifestation de la vérité. Les avocats des parties civiles comme les avocats de la défense. Et par conséquent, tout débat qui risque de polluer la manifestation de la vérité, ne serait-ce que parce que ce sont des débats par essence polémiques au sens noble de la polémique.
Pourquoi il y a eu des historiens? Pourquoi il y a eu des spécialistes du terrorisme? Pourquoi Georges Fenech allait être dessiné pour donner l'environnement,
mais ça ne donne pas lieu, à débat. C'est ça le sujet.
On a quand même auditionné le président de la commission d'enquête parlementaire belge. Hein.
Ouais.
Pas vous, mais le président.
Écoutez, on va pas polémiquer.
C'est important quand même.
Quand la répression est là, c'est que la prévention a échoué. Qu'est-ce qui vaut mieux? Des bons procès avec des très longues peines ou éviter effectivement que ce terreau ne se répande? Et c'est en ce sens qu'il faut que nous luttions, c'est la seule manière pour moi. C'est faire de la prévention, c'est-à-dire réussir l'intégration. Ces lois séparatistes qui ne sont pas anodines non plus, ces chartes qu'on signe aujourd'hui quand on fait partie d'une association, toutes ces choses qui sont faites quotidiennement par les élus, par les associations, c'est ça qui nous sortira de cette affaire.
On va continuer à en parler. On va marquer une courte pause, c'est le mot de la fin parce que vous quittez ce plateau.
Ce procès, à sa façon, est aussi une façon de lutter contre l'islamisme fondamentalisme car il a des vertus pédagogiques.
Vous me permettez, je mets les pieds dans le plat. Pourquoi islamisme fondamentalisme? L'islamisme n'est-il pas de fait fondamentaliste? Non mais pardonnez-moi.
Mais bien
les mots. Merci en tous les cas, Juliette Méadel. C'est important de se confronter aussi à la douleur des victimes, quelle qu'elle soit, évidemment, de répondre. On marque une courte pause. On continuera à en parler parce que le rôle de l'avocat de Salah Abdeslam m'intéresse au plus haut point et d'autres sujets. Restez avec nous. Merci encore et à tous. Merci à vous d'être avec nous dans quelques instants, la suite de vos débats. Mais tout d'abord, bien sûr, il est 13h, c'est le journal. Rebonjour, cher Olivier.
Rebonjour, chère Sonia. Bonjour à tous. Et vous en avez largement parlé lors de cette première heure. C'est donc l'heure du verdict dans le procès du 13 novembre. La Cour doit rendre sa décision en fin de journée. Le sort de Salah Abdeslam et ses co-accusés jugés depuis septembre sera enfin connu. Sandra Buisson, bonjour. Vous êtes au Palais de justice de Paris. Et après 10 mois de procès qui ont rythmé le quotidien des victimes, c'est la question de l'après qui se pose maintenant.
Oui, 2400 personnes se sont portées partie civile, dont 400 sont venues témoigner lors de ces audiences. Il y a aujourd'hui chez certains cette hâte que ce procès se termine. C'était une épreuve, il a été éreintant psychologiquement pour beaucoup. Ils ont dû mettre leur vie en suspens, c'était leur ligne d'horizon depuis les attentats. Mais ces audiences risquent de laisser un vide. 10 mois d'audience qui ont créé une communauté, des liens très forts entre parties civiles, bien sûr, mais pas seulement. Certaines victimes ou familles de victimes se sont rapprochées d'avocats de la défense notamment. Certains sont aussi entrés en contact avec des accusés qui comparaissent libres et les ont emmenés par exemple voir la stèle du souvenir près du Bataclan. La peur du vide après avoir partagé toute une souffrance commune, plusieurs parties civiles en ont fait part. Il faut inventer l'après, se défaire un peu plus de notre statut de victime. C'est ce qu'a expliqué le président de l'association Life for Paris. Pour accompagner cette transition avec l'après, la ligne d'écoute psychologique va être prolongée cet été. Il faut garder en tête qu'il pourrait y avoir des suites judiciaires à ce procès puisque les accusés ou le parquet peuvent faire appel.
Merci beaucoup Sandra pour toutes ces précisions. Et je vous le rappelle, Salah Abdeslam risque la peine la plus lourde du code pénal, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté incompressible. 1000 hectares brûlés hier soir dans les Pyrénées-Orientales après le déclenchement d'un violent incendie. Les 300 pompiers mobilisés ont réussi à maîtriser la propagation des flammes cette nuit. 300 habitants ont été évacués. Heureusement, pas de blessés. Le ministre de l'Intérieur qui a indiqué qu'il se rendrait sur place pour apporter son soutien aux pompiers et aux sauveteurs. Dans l'actualité également, l'épidémie de Covid-19 et les cas de contamination qui continuent de grimper en France. Regardez plutôt ces chiffres, plus de 147 000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures. 15 000 patients hospitalisés, dont 898 sont en soins critiques. 37 décès ont été recensés. Direction les États-Unis à présent. Et ce témoignage troublant concernant l'invasion du Congrès le 6 janvier 2021, Donald Trump aurait essayé de prendre le volant d'une limousine présidentielle pour rejoindre ses partisans. C'est ce qu'a affirmé une ancienne collaboratrice de la Maison-Blanche devant la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole. Les précisions de notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel.
Donald Trump était fou furieux. Il voulait aller au Capitole retrouver ses partisans. Il a hurlé sur l'agent qui assure sa protection du Secret Service et sur le chauffeur. Je vais vous le dire en version originale. « I am your fucking president », il a dit. Je pense qu'il n'y a pas besoin de traduire. On comprend le ton. Il s'est jeté depuis le siège arrière sur le volant. L'agent du Secret Service lui a stoppé le bras, lui a demandé d'enlever sa main du volant. « Nous n'allons pas au Capitole », a-t-il dit. Donald Trump s'est alors emporté, l'a attrapé au collet et s'en est pris physiquement à cet agent, encore une fois chargé de sa protection. Une scène hallucinante. Cassidy Hutchinson a également assuré que Donald Trump savait le matin même de l'insurrection que ses partisans venaient armés. « J'en ai rien à faire qu'ils soient armés », aurait-il répondu. « Ils ne sont pas là pour me faire du mal », il avait demandé à faire enlever les détecteurs de métaux à l'entrée du Capitole. En fait, elle a surtout décrit combien Donald Trump était incontrôlable depuis qu'il avait perdu l'élection présidentielle. Elle a même décrit une scène où il a jeté de la vaisselle par terre, envoyé du ketchup sur les murs de la Maison-Blanche. C'est vraiment un témoignage accablant. À noter que seul le ministre de la Justice peut décider s'il doit engager des poursuites envers Donald Trump pour cette insurrection donc au Capitole. Donald Trump qui envisage toujours de se présenter à la présidentielle de 2024.
En Italie à présent, la Villa Aurora à Rome sera de nouveau aux enchères. Et à partir de demain, elle n'avait pas trouvé preneur aux deux premières ventes. Dans cette propriété, on peut observer une peinture du Caravage estimée à 350 millions d'euros. Lors de la dernière offre, la Villa Aurora était mise à prix à 471 millions d'euros. Et le débat continue dans un instant sur Midi News. Mais avant de retrouver Sonia Mabrouk et ses invités, un mot de sport avec l'exploit de la Française Harmony Tan qui a éliminé Serena Williams au premier tour de Wimbledon.
Retrouvez la chronique sport avec Unibéo Piscine, créateur des piscines sur mesure. Piscineunibéo.com.
L'exploit d'Harmony Tan, la Française tombeuse de Serena Williams pour le grand retour de l'ancienne numéro 1 mondiale. 7-5, 1-6, 7-6, 10-7 au super tie-break après un combat de 3h et 10 minutes.
Alizé Cornet ne tremble pas face à Yulia Putintseva. En revanche, le tournoi s'arrête là pour Océane Dodin, Chloé Paquet et Clara Burel. La numéro 1 mondiale Iga Swiatek enchaîne sa 36e victoire consécutive en dominant Jeanne Hafet. Expéditive, Maria Sakkari s'impose en deux manches contre l'Australienne Zoe Ives.
C'était la chronique sport avec Unibéo Piscine, créateur des piscines sur mesure. Piscineunibéo.com.
Vous suivez Midi News en direct et je vous en remercie. Bon appétit si vous êtes à table. Et oui, il y a beaucoup de gens qui nous regardent à table. Parfois avec un plateau télé qui vous regarde, cher Olivier d'Artigol.
Bonjour Sonia.
Bonjour à vous. Souhaitez bon appétit à nos chers bien amis. Sûr. Attention, Elisabeth Lavie est,
je vois ça, il y a
est en forme. est en forme.
C'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Maître tectonique des plaques.
Carbon de 16.
Mais il paraît que Fabien Roussel va rentrer au gouvernement.
Oh là là. Oui, elle est très en forme. Écoutez, Europe 1 ce matin à 8h15.
Mais que lorsqu'on reçoit Fabien Roussel, c'est ça? Parce que sinon, je vais inviter le... Bon. Bah, on va en parler, en tous les cas, à l'Assemblée nationale, parce qu'avant de revenir, on a eu un débat assez animé quand même sur le procès des attentats du 13 novembre. On va y revenir. Pourquoi? Parce que je voudrais qu'on s'arrête. Très important de vous entendre aussi, Maître et Georges Fenech. Vous avez évidemment toute l'expérience de cette matière judiciaire sur le rôle de l'avocate de Salah Abdeslam, jeune avocate. Elle avait eu une phrase qui a provoqué beaucoup, beaucoup de crispation, qui a eu un retentissement important. Elle avait dit que Salah Abdeslam avait... l'humanité en lui, quelque chose comme ça, je vais la citer précisément, et vous nous direz qu'elle est, comment on peut prendre en charge un tel dossier quand on est avocat. Mais tout d'abord, si je vous tends la main, vous me la serrez, Olivier d'Artigol?
Oui.
C'est de la courtoisie.
Je vous fais même la bise.
Si j'étais de la France insoumise et que vous êtes Rassemblement national, vous m'auriez serré la main dans l'hémicycle?
Oui, mais je pense que tout ça, il faut que jeunesse passe, et peut-être que ça... Non, mais je suis très bienveillant. Donc j'espère que les us et coutumes d'une vie démocratique et républicaine viendront au palais Bourbon, voilà, pourquoi pas.
Mais non, mais pourquoi pas. On sent la foi en l'humanité, ce garçon, c'est formidable. Regardez la séquence.
Madame Bazin-Malgras.
Il est l'un des plus jeunes députés. C'est à ce titre qu'il était d'ailleurs assesseur hier à l'Assemblée. Louis Boyard, en bras de chemise, sans cravate, mais bon. Et qui a ostensiblement refusé de serrer la main au député RN Philippe Ballard. Alors ça pourrait être anecdotique, mais il en va de notre courtoisie républicaine. La séquence a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous choque ou est-ce que c'est une polémique picrocolline?
Non, alors ça ne me... J'aime beaucoup le mot picrocolle.
C'est pour voilà, ça que je l'ai placé. C'était un défi de placer.
Ça me choque, mais ça ne m'étonne pas. Et je reprendrai qu'un gamin fasse des gamineries. Finalement, on ne devrait peut-être pas s'en étonner. Sauf que Mme Obono a également refusé de serrer la main de Julien Odoul, que l'ordre alphabétique avait placé à ses côtés.
Et moi, ce qui m'a... Roussel est à côté de Sandrine Rousseau.
Oh. Il y a des couples comme ça.
Il lui a fait la bise. Hein. Et ce qui me...
Pour ça, c'est pas un homme déconstruit. Hein.
Pardon, ce qui m'a frappé hier, dans cette séance dont j'ai regardé de longs extraits, si vous voulez, c'est qu'on accuse tout le temps le Rassemblement national de ne pas être républicain. Moi, je les ai vus arriver à l'Assemblée en costard-cravate, tailleur, tout à fait calme et digne. J'ai vu les députés de la France insoumise arriver sur le mode « on a gagné, on fait la fête ». Bon, chacun en pense ce qu'il voudra. Moi, je ne trouve pas que ce soit très bien. Ce sont des représentants du peuple. Refuser de serrer la main à un représentant du peuple, c'est une insulte au peuple. Point barre. Mais... d'une façon générale, moi je pense que les députés du Rassemblement national qui se savent attendus au tournant D'accord ? Pour l'instant, en tous les cas, ont plutôt fait un sans-faute sur les manières républicaines. Et je pense qu'ils ont décidé, effectivement, de gagner leur galon de respectabilité. Pour l'instant, ceux qui se sont comportés de façon non républicaine, ce sont ces députés qui refusent de serrer la main.
Lui, voilà. Boyard se trompe doublement parce que vous dites insulte au peuple. Et il faut savoir que, et c'est un secret électoral pour personne, beaucoup d'électeurs et du Rassemblement national et de la France insoumise, parfois, il y a des vases communicants. Donc certains vont le prendre pour aussi une insulte personnelle. Alors, est-ce que ça vous choque ? Manque de courtoisie républicaine ? C'est vrai qu'on n'est pas habitué dans le chaudron de la démocratie, Georges Fenech, qu'est l'hémicycle, de voir de telles images ?
D'abord, moi, ce qui me navre, ce qui me désole, c'est de voir un député en bras de chemise,
oui,
col ouvert, sans veste, à la tribune. Voyez-vous ? À l'époque où j'y étais, mais ce n'est pas si vieux que ça, hein, c'était jusqu'en 2017, si vous n'aviez pas un costume cravate, vous ne rentriez pas dans l'hémicycle. C'est une question de respect de l'institution, voyez-vous. Déjà, ça, j'ai du mal à accepter, voyez-vous. Alors après, le refus de serrer la main aussi me navre. Parce qu'on peut être en opposition. À partir du moment où vous avez un parti qui est un parti légal, qui a été élu, vous ne refusez pas la poignée de main républicaine. Moi, j'ai félicité les députés Rassemblement National comme j'ai félicité ceux qui venaient d'être élus pour LFI. C'est une question de démocratie, de respect de nos institutions. Et je suis vraiment navré de voir cela. Moi, je ne l'ai pas connu à mon époque, je ne l'ai pas connu. Et je vous dis, ce n'est pas ancien. Il y a quelque chose qui s'est détérioré rapidement, quoi.
Maître, on va écouter la réaction de celui qui, comment dire élégamment, s'est pris un vent, le député du RN Philippe Ballard. Et il passe assez rapidement. Il comprend les intentions du député de la France Insoumise. Écoutons ses mots juste après.
Sur le moment, je n'ai pas compris. Je suis monté voter à la tribune. En votant, je lui dis, ah ben c'est bien, l'urne est pleine. Et puis, je lui tends la main. Et là, en fait, rien. Je pense que c'était un geste tout à fait assumé, un geste de défiance, un geste d'impolitesse, d'intolérance, de manque de respect. Voilà, comme certains députés de la France Insoumise ont l'habitude de pratiquer. Ce que ça présage pour les futurs débats qui vont avoir lieu, je pense que ça présage des moments extrêmement tendus quand on a des députés de la France insoumise qui se comportent de cette façon.
La conséquence, c'est qu'en refusant de serrer la main, Louis Boyard, j'allais dire, nourrit la respectabilité du RN. Il leur permet d'être d'autant plus respectable. Allez-y.
Évidemment, le caractère disgracieux du comportement jette la lumière sur celui qui en est victime et le valorise. Mais la réflexion de Georges Fenech me faisait penser à un épisode, je crois que c'est Jack Lang qui avait été raccompagné par un huissier et sorti de l'hémicycle parce qu'il était en col Mao et donc sans cravate. Voilà. On voit l'évolution des choses. Cela dit, maintenant, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est peut-être aussi anecdotique à raison de l'âge de M. Boyard, si vous voulez. Voilà, il ne faut peut-être pas donner une dimension.
Daniel Obono n'est pas beau. Enfin,
Non, mais vous avez raison. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça renvoie aux électeurs qui se font régulièrement reprendre, notamment sur l'absence de participation et d'investissement dans les élections, sur l'abstention, etc. Est-ce que l'Assemblée, à travers ses élus, donne un exemple propre à valoriser le travail de l'Assemblée ?
On fait la leçon, on nous dit.
Et là, le fait de verser dans les gamineries ce qui promet une collaboration très ténue entre les différents groupes parlementaires renvoie un signal très désagréable aux citoyens.
Juste sur les réseaux sociaux, Jordan Bardella, et vous réagissez. Lui, il y va à la sulfateuse. Regardons. Est-ce qu'on l'a, Jordan Bardella ? Hop, il arrive.
Vous savez que...
Alors, discours émouvant et rassembleur élégance de tenue d'âme de la part de José González, ça c'est le doyen qui s'est exprimé, député RN et doyen de l'Assemblée, nous a tous rendus fiers. Quel contraste avec le zadiste débraillé de LFI qui refuse de serrer la main de ses adversaires.
C'est nuancé. Juste une chose, on peut très bien avoir un affrontement rugueux, frontal, dans l'hémicycle, tout en ayant une exemplarité dans les comportements humains, surtout que, comme on dit, on nous regarde.
Et
donc, la crise de la politique peut être aussi nourrie par ce type
d'attitude. Mais il l'a fait exprès, il savait très bien qu'il y avait les caméras.
Il fut un temps où ce genre de scène pouvait donner rendez-vous sur le pré le lendemain matin
avec les
au fleuret. C'était, je crois, Gaston Defferre, le dernier duel sur le pré.
Qui visait un endroit très particulier de l'autre dueliste, d'ailleurs.
Oui, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'on nous explique, et moi je le je partage cette opinion, qu'il est fort bon que l'Assemblée reflète toutes les opinions qui ont cours en France. Et il me semble qu'on débat. La tolérance consiste évidemment à être capable de parler avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Sinon, c'est pas de la tolérance. Et je rappelle juste un autre, si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de ce que les Américains appellent « virtue signaling », c'est-à-dire il faut montrer sa belle âme. Marion Maréchal, qui était donc la seule à ce moment-là députée Rassemblement National, jeune femme de 22 ans à l'époque, raconte qu'il y avait un ascenseur, je ne sais plus où, et que quand elle était dans l'ascenseur et que d'autres l'attendaient, certains refusaient de prendre l'ascenseur avec elle. Quel courage!
Sans cette scène de la main tendue, on aurait pu parler davantage du propos du doyen d'âge hors séance.
On va le faire.
Sur l'OAS.
On va le faire. Georges, juste les titres, et je reviens vers vous. Les titres de l'actualité avec Audrey.
Bruxelles propose d'interdire la vente de produits aromatisés de vapotage dans le but d'enrayer cette pratique qui se développe notamment chez les jeunes. L'idée est d'instaurer des législations plus strictes pour décourager le tabagisme, y compris avec les cigarettes électroniques. Au sommet de l'OTAN à Madrid, Joe Biden annonce des renforcements de la présence militaire américaine dans toute l'Europe, plus précisément en Espagne, Pologne, Roumanie, dans les États baltes, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie. L'objectif, selon le président américain, est que l'OTAN puisse répondre à des menaces venant de toutes les directions. Et puis Bruno Le Maire était l'invité de Laurence Ferrari ce matin. Le ministre de l'économie ne croit pas en la récession économique. Il affirme que la croissance française résiste malgré l'inflation.
Voilà. Merci Audrey. Georges, vous vouliez
non,
rajouter.
C'est anecdotique, mais là, bon, on a l'image. Oui. C'est surtout pour la caméra, je dirais, ce genre de geste symbolique. Mais rassurez-vous, il y a un autre endroit que vous ne voyez jamais. C'est celui de la buvette des parlementaires.
Ah si!
Ah, vous la connaissez.
Vous la connaissez. Pas l'Assemblée, parce que moi j'étais pendant 10 ans à Public Sénat, je connaissais la buvette.
Bah, vous, évidemment, mais le grand public ne connaît pas la buvette. Et à la buvette, une fois qu'on a ferraillé, qu'on a croisé le fer, qu'on s'est querellé, comme ce n'est pas possible dans l'hémicycle, je vous garantis qu'une fois qu'on est à la buvette, eh bien on reprend le dialogue, on se serre la main, on prend un verre ensemble. Et finalement, c'est ça qui
est rassurant. Vous voyez ce que vous décrivez. Nous, on le connaît, journaliste, parce qu'on anime avec des responsables politiques des débats, et je sais que quand on sort, ils se serrent la main. Mais là, je ne suis pas sûre que ce sera le cas avec.
C'est pire, Georges.
Je ne suis pas sûre. Bon, on verra.
Oui, non, mais
rendez-vous à la buvette, comme on dit.
Si vous voulez, l'espèce de volonté de faire revenir ce Front républicain, et d'ailleurs, dans la Macronie aussi, il y a des gens qui nous ont dit ça, ma boussole, Papendia, il le disait dans Le Parisien, ma seule boussole, bah dis donc.
C'est la manière dont Emmanuel Macron a été
réélu. Oui, absolument. Ma seule boussole, Olivier, c'est le Rassemblement national. Si vous voulez, en fait, tout ça est absurde.
Qui c'est qui distribue des certificats de respectabilité ou de républicanisme? Dites-nous, parce qu'Emmanuel Macron, par exemple, dit un gouvernement, oui, mais sans la France insoumise et sans le Rassemblement national. Moi, je me souviens même, Fabien Roussel, d'ailleurs, j'aurais pu lui opposer cet argument ce matin, qui nous avait dit, oui, c'est très bien la démocratie, oui, mais sans Éric Zemmour. Et ça, chacun a son
diable.
À son diable, oui, son épouvantail.
Comment on fait? D'abord, on va regarder les prochains jours à l'Assemblée nationale. Ça va être passionnant, notamment l'élection du président de la commission des finances demain, où d'après moi, ce sera un premier moment de vérité et de clarification.
Vous voulez en parler? Je peux préciser à nos téléspectateurs que la présidence de la commission des finances, poste ô combien sensible et important, je vais juste rappeler, c'est un peu technique mais rapidement, c'est un vote à bulletin secret par les membres de la commission des finances et c'est ensuite, écoutez bien, au seul député de l'opposition de choisir. Donc pour le LR, se pose la question, il y aura un choix important à faire, soit il vote pour le RN en la personne de Jean-Philippe Tanguy, soit ils s'abstiennent. Et qu'est-ce qui va se passer s'ils s'abstiennent? Eh bien, c'est la France insoumise, Éric Coquerel, le couteau entre les dents, dont je plaisante, qui arrivera.
Déjà aux finances, Éric Woerth a même déclaré que c'était un commissaire très sérieux et conséquent.
De qui?
De Éric Coquerel. Éric Woerth.
Mais non, Éric Woerth, mais non, il n'a pas dit cela.
Éric Woerth, vous vérifierez, Sonia, a dit hier que Éric Coquerel, après il a parlé à France Insoumise, mais que Éric Coquerel, sous la mandature passée, avait été un commissaire aux finances sérieux.
Mais qu'on
le fasse vérifier, je vous assure. Ça m'a d'ailleurs surpris.
Alors, quelle est la crainte de certains? C'est qu'il livre tous les dossiers fiscaux, parce qu'évidemment, il va en avoir la primeur et le secret en étant à ce poste ultra sensible.
Ils peuvent demander, mais ils ne peuvent pas en faire.
Ça dépend. Quand vous êtes l'officine de Mediapart, vous pouvez tout donner et ça sort dans la presse.
Absolument, mais surtout.
Est-ce que pas donner de bonnes
est-ce
idées.
Est-ce que la NUPES a envisagé un autre candidat? Parce que je pense que pour. pour beaucoup de gens, Coquerel, quelles que soient par ailleurs les qualités que lui prête Éric Woerth, est probablement un peu, je cherche le mot, enfin en tous les cas, il va leur faire peur. Et est-ce qu'il n'y avait pas des candidats peut-être plus consensuels au sein de la NUPES, qui auraient peut-être eu plus de faveur du côté de la droite? Parce qu'après tout, il faudra aussi les voix LR, non?
Disent certains députés LR en off, concernant Valérie Rabault, oui, qui est l'ancienne co-rapportrice du budget, me semble. Et quelle expérience comme commissaire aux finances.
Oui, mais voilà, elle a été écartée en faveur de. Bon, alors, ça fait un peu cuisine, mais c'est très important, parce qu'évidemment, on va voir, Georges, quelle sera la position de la droite et des Républicains, là.
Donc, les macronistes votent pas, c'est ça?
Nous la verrons.
vous sentez détaché de tout cela.
Les LR, pardon, ont demandé, je crois, un isoloir. Hein.
Oui.
Pour éviter toutes les pressions, etc.
Ça ne va pas être très compliqué à décrypter. Je crois que les LR ont 8 voix, la NUPS en a 9, et le Rassemblement national en a 11.
Si tout le monde va au troisième tour, sans que les députés macronistes ne participent au vote comme ils l'ont dit, au troisième tour, si chacun maintient son candidat, c'est la NUPES qui est élue. Si le LR retire son candidat en troisième tour, ils seront arbitres.
Non mais attendez, le mini-scandale, c'est que Éric Coquerel, j'ai rien contre lui, mais qu'on ait écarté Valérie Rabault, socialiste, j'ai souvent interrogé, qui est une femme de qualité, qui connaît très bien ses dossiers, et quand la gauche nous dit « Ah, il faut des femmes », et privilégier Éric Coquerel, bon, voilà.
Voilà, peut-être qu'il va quand même falloir se dire qu'il faut des hommes aussi, parce que...
Ah, arrêtez de nous parler d'égalité, hein, vous. Bon.
Ça va, la présidence, ça va.
On écoute Marine Le Pen sur ce sujet. Attends, on dit qu'on a Marine Le Pen à ce sujet, on va l'écouter.
Commission. Il n'y a pas de pacte, il y a juste la mise devant leurs responsabilités des députés, les Républicains. Voilà. Car moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que leurs électeurs ne souhaitent pas que ce soit M. Coquerel, encore une fois, l'extrême-gauche de l'extrême-gauche, qui soit à la tête de la Commission des Finances.
Bon, voilà, on va attendre, on va attendre ce qu'il en est. Je voudrais revenir au procès des attentats du 13 novembre, que je vais qualifier d'hors norme, parce que nous avons eu un débat animé tout à l'heure sur le fait qu'il a été historique ou pas. On a écouté certains avocats des parties civiles et je voudrais m'arrêter avec vous tous sur le rôle, les propos tenus par l'avocate de Salah Abdeslam. D'abord, de qui s'agit-il? C'est une jeune avocate, Olivia Ronan, c'est bien cela, Georges Fenech,
oui,
c'est
32 bien cela, ans, je
voilà,
crois.
Qui a tout à fait, évidemment, faut-il le préciser, mais le droit. Peut-être qu'elle y voit d'ailleurs une mission de défendre quelqu'un comme Salah Abdeslam, et c'est heureux qu'il y ait des avocats, évidemment, pour défendre. D'ailleurs, on rappelle qu'Éric Dupond-Moretti avait défendu le frère de Mera.
Abdelkader.
Exactement, Abdelkader Mera. Mais ce sont ses propos, c'était il y a quelques mois, quelques semaines, qui ont dérangé quand elle a dit, je vais vous dire exactement, elle a qualifié Salah Abdeslam de très humain. Faut-il aller jusque-là, Georges Fenech?
Mais Salah Abdeslam est un terroriste qui est passé à l'acte, qui sera condamné ce soir, bien sûr. Mais pour autant, il n'en reste pas moins un homme. Vous savez, quand on dit on va juger un monstre, non, on juge un homme qui a commis des actes monstrueux. Donc c'est dans ce sens-là, je pense, que l'avocate a dit, vous allez juger un homme. Et oui, on ne va pas juger un monstre inhumain, même si ses actes sont inhumains, vous comprenez? C'est toute la différence. Et quelque individu que ce soit, quoi qu'il ait commis, il a le droit, n'est-ce pas, cher Cabon, à une défense. Et moi, je me souviens du procès de Barbie, j'étais à Lyon à l'époque, Vergès défendait Klaus Barbie, qui avait aussi le droit d'avoir une défense. C'est la force de notre démocratie.
Mais vous ne l'auriez pas défendu.
Alors après, si vous me posez la question à titre personnel, oui, je fais jouer ma clause de conscience. Et d'ailleurs, c'est tout à fait prévu par... la réglementation du barreau. On peut faire jouer sa clause de conscience et ne pas défendre tel ou tel individu.
Si on est commis d'office, par exemple.
Par contre, à ce moment-là, il y a le bâtonnier qui doit prendre ses responsabilités et commettre d'office un avocat, parce que tout accusé a le droit à une défense.
Qu'auriez-vous fait, Maître Carbon de 16?
Moi, évidemment, j'aurais défendu Salah Abdeslam.
Avec des mots comme ça, dire qu'il
Moi, je suis un adepte de la théorie d'Alberno, les défendre tous. C'est très bien qu'il y ait des confrères qui fassent jouer leur clause de conscience. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y aurait un heurt éthique profond entre eux et leurs clients, ils seraient mauvais dans la défense. Et c'est très bien qu'il y ait des avocats qui se refusent par principe à faire jouer la clause de conscience en disant il faut que tout le monde ait droit à une défense. Ce que je voudrais signaler chez cette jeune consoeur, c'est d'abord son immense mérite d'avoir accepté la mission de défendre celui que toute l'opinion publique exècre. Il faut être sacrément courageuse pour relever le défi d'assumer une telle défense. Et moi, je suis très admiratif.
On n'allait pas la menacer pour cela.
Très admiratif. Eh bien, détrompez-vous, elle a été l'objet de beaucoup de menaces, y compris au sein du palais de justice. Beaucoup de vindictes, beaucoup d'insultes et même des menaces. Donc, elle est spécialement courageuse. Ensuite, que l'avocat rappelle ce que Georges Fenech vient de dire, c'est-à-dire, vous allez juger un homme et un homme dont le mystère du passage à l'acte criminel va occuper l'intégralité du débat.
J'ai compris, mais écoutez-moi, j'essaie d'aller plus loin. Je vais m'arrêter sur ce qu'elle dit, parce qu'elle dit qu'il ne faut pas lui faire porter un costume trop grand avec un verdict comme une perpétuité incompressible. C'est pour ça. Il est très humain. C'est pas lui qui a tout. Vous voyez, ça participe.
Il est très humain. C'est pas lui. Il est humain. Et la deuxième chose,
c'est pas lui qui a décidé de tout.
Si vous voulez, il y a suffisamment de gens qui s'occupent d'établir la culpabilité de ce justiciable pour que le conseil de ce justiciable vienne dire sa peine, mais sa juste peine, pas plus. C'est ça la mission de l'avocat.
Je voudrais vraiment qu'on parle, parce que ça m'a interpellé ce que vous avez dit en début d'émission, la perpétuité incompressible. Ça n'existe pas en France. Totalement.
30 ans.
30 ans.
Non mais incompressible, ça veut pas dire... ça veut dire que vous êtes recevable à déposer...
Il a quel âge?
Ça veut dire que vous êtes recevable à déposer une demande de
mise.
Il sortira à 60 ans.
À 60 ans, oui, mais 60 ans, il sortira.
Non, il pourra demander...
Il pourra demander à sortir.
Mais les tribunaux ne sont pas obligés d'application des peines d'y faire droit.
Dans 30 ans, le temps aura passé. Les victimes ou les parents des victimes...
Vous avez un théoriste, ça fait plus de 40 ans qu'il y est, c'est Georges Ibrahim Abdallah.
Le gendarme
condamné à perpétuité. Il n'est toujours pas libéré.
Vous répondez, à tout de suite.
Toujours détenu à la maison.
On poursuit nos débats. Permettez-moi juste de citer un ami que vous connaissez bien, qui officie sur cette antenne et qui nous regarde, oserais-je dire, dans quelles circonstances en faisant du vélo d'appartement. Et vous le retrouverez à 19h. C'est l'ami Mathieu Boccoté que je salue. Si Mathieu, encore un effort.
Allez.
D'abord les titres d'Audrey, on poursuit notre débat.
Les chiffres du Covid continuent de grimper. Regardez, près de 148 000 nouveaux cas confirmés en 24 heures. Hier, 15 496 malades du Covid étaient hospitalisés. 898 étaient pris en charge dans des services de soins intensifs. Enfin, 37 décès ont été déclarés. L'État a-t-il été assez prévoyant sur le stock de masques chirurgicaux avant l'épidémie de Covid? La réponse est non pour le tribunal administratif de Paris. Il estime que le gouvernement a commis une faute. Avec près de 100 millions de masques, le stock n'était pas suffisant. Beaucoup de professionnels de santé se sont retrouvés exposés à une pénurie dès le début de la crise sanitaire. Et puis du tennis, victoire de prestige pour Harmonitane au premier tour de Wimbledon. La Française, 115e mondiale, a vaincu la septuple lauréate Serena Williams. 7-5, 1-6, 7-6.
Le verdict du procès des attentats du 13 novembre, ce sera tout à l'heure. Tout au long de cette journée, on va écouter, continuer d'écouter les familles de victimes comme Bruno, rescapé du Bataclan.
C'est long, on a mis notre vie en suspens pendant 10 mois. On a essayé de sortir intact de ça. Moi, j'ai mis 6 ans à sortir du Bataclan. J'y suis retourné pendant 10 mois. Voilà, il a fallu le faire. Maintenant, on est vraiment impatient que ça s'arrête. Après... la justice va faire son travail. J'espère réellement, et comme ça a été dit, que ces hommes seront jugés à la hauteur de ce qu'ils ont fait et pas à la hauteur de l'événement lui-même, parce qu'effectivement, les assassins ne sont pas dans le box. Moi, j'en ai vu 3 et ils ne sont pas là. J'en ai vu un mourir et il y en a 2, je sais qu'ils sont morts à côté de moi. Donc c'est pour ça. Et pour nous, il est important réellement que la justice... Parce qu'un truc qui est sûr, c'est que la seule réponse qu'on peut emporter à la barbarie et au terrorisme, c'est une démocratie et une justice juste.
Ben, il est formidable.
Très bien.
Il a tout compris à ce qu'est un procès.
J'aurais voulu répondre, enfin en tous les cas, continuer la discussion sur... J'étais un peu... Quand j'ai entendu le terme humain au départ, effectivement, humain, ça ne veut pas dire gentil. Hitler était un être humain. On aimerait que ce soit des gens extra-humains. Ça nous disculperait en quelque sorte. Ça nous désolidariserait. Ce n'est pas le cas. Cependant... J'ai un peu en tête les propos de l'avocate qu'elle avait tenus, je ne sais plus sur quelle antenne, sur C8, me semble-t-il. Et d'abord, elle n'a pas dit simplement qu'il était humain, je crois qu'elle a dit qu'il était très humain, ce qui là change un peu le sens du mot humain. Et surtout, dans le reste de son propos, elle a expliqué que dans le fond, il pouvait aussi être un être avec qui on pouvait parler. Enfin, disons, elle a été au-delà, si vous voulez, du qualificatif d'humain. Et je me tourne vers vous, cher maître, pour savoir, puisque vous avez dit que vous l'auriez défendu, est-ce que, effectivement, pour défendre son client, tout, on fait flèche de tout bois, et est-ce que ce type de défense, la rédemption, il peut se racheter. Est-ce que ça, ça vous parle de quelle façon ?
Oui, et ça me parle d'autant plus que ma consœur fait la connaissance de Salah Abdeslam, non pas au moment de l'attentat, mais au moment où lui est confiée la défense de Salah Abdeslam, soit 6 ans après la commission des faits. Et un homme qui passe 6 ans à l'isolement a évolué nécessairement. Donc, la première chose que fait l'avocat, c'est de s'intéresser à qui est la personne qu'il a en face de lui. Qui est cet accusé qui va comparaître, dans quelle disposition d'esprit est-il ?
Qui est rentré en rappelant les textes de l'État islamique et qui les a repris. Qui n'a pleuré que sur la souffrance de sa mère, qui n'a jamais condamné les attentats, qui estime qu'il est un lampiste, hein, il est presque passé par hasard.
Vous avez raison, et qui s'est même présenté au début du procès comme étant un soldat de l'État islamique.
Bien sûr.
Mais vous avez vu, vous voyez, en 10 mois, chère Sonia, si j'ai bien suivi le procès, Salah Abdeslam a aussi évolué dans ses déclarations. D'abord en disant qu'il avait renoncé à commettre... Mais c'est peut-être de la stratégie, mais vous voyez, ça, ce que vous êtes en train de dire, c'est l'immense difficulté de l'office du juge. C'est toute la noblesse du juge, c'est d'apprécier la sincérité des déclarations des accusés. L'accusé déclare-t-il, en présentant ses excuses, que c'est le cas par une unique opportunité pour attirer vers lui de la clémence ? Ou le déclare-t-il parce qu'il y croit ? Et l'immense difficulté du juge, c'est d'apprécier cette sincérité. L'immense difficulté de l'avocat, c'est contre tous, c'est précisément, tout le monde étant convaincu de l'absence totale de sincérité et même de la duplicité de son propre client, c'est de faire passer que c'est quand même possible de réfléchir pendant 10 mois de procès et de changer de conviction.
Il estime qu'il n'a pas de sang sur les mains.
Mais le verdict, tombera.
Humaniste, moi je dirais que cette Salah Abdeslam est un homme qui, par la barbarie de ses actes, s'est exclu de la communauté des hommes. Et d'ailleurs, moi c'est la façon dont je vois les choses. Et d'ailleurs, quand il est condamné à de la réclusion, il est reclus, c'est-à-dire qu'il est mis à l'écart de la communauté des hommes.
Et vous savez, je pense aux hommes ordinaires de Christopher Browning, cet historien qui a étudié un bataillon de SS, c'était vraiment des bons pères de famille, non, en quelque sorte. C'est ça qui est frappant.
Avec Hitler, le nazisme est tombé. Là, l'islamisme, il continue.
Ah oui, vous avez raison,
Sonia.
Et ça,
c'est une immense différence.
Bien sûr.
On ne peut pas... Vous voyez, vous prenez...
Oui, mais la manière dont ce procès a instruit, s'est déroulé, c'est aussi une réponse aux terroristes, en disant, chez nous, ça se passe comme ça.
Oui,
voilà,
ils vont trembler.
L'état de
droit. Mais ils sont là pour mourir.
Mais oui, mais
donc,
il me semble que c'est quand même aussi une manière de lutter face au terrorisme.
Alors,
que de mener ce type de procès de cette manière-là.
Monsieur d'Artigol, qu'est-ce que quelqu'un qui est prêt à mourir peut faire d'un procès
Je
parle, moi, de la bataille idéologique.
Salah Abdeslam, visiblement, n'était pas prêt à mourir puisqu'il comparait vivant dans le box.
Bien sûr.
Ça, c'est la première chose.
Non,
ensuite,
mais les autres
encourir,
sont vraiment...
Vous savez, encourir 30 ans, ce n'est pas neutre. Enfin, juste une dernière chose. Ne confondez pas ce qu'est le désir, même inconscient, de vengeance que traduit un tel procès et la lutte contre l'islamisme. Là, on juge des gens. Ceux qui luttent contre l'islamisme, ce sont nos services sur le terrain. Ce sont nos armées au Mali.
Il y a une différence fondamentale. Moi, je pense que ce sont les citoyens.
Les professeurs aussi, peut-être.
La menace endémique, qu'est-ce que vous en faites ?
Mais là où je vous rejoins, c'est croire qu'un procès a une vertu pédagogique pour quelqu'un de déterminé, c'est une vue de l'esprit.
Ah, c'était ma question.
Oui, mais à l'échelle de la société, c'est
pardonnez-moi. Sandra Buisson, elle nous attend devant la cour spéciale d'assises de Paris. J'ai beaucoup de questions. Sandra, d'abord, sur l'attitude des familles de victimes. Ça, c'est important. Avant le verdict, on a entendu tout à l'heure Patrick Jardin qui, lui, dit « Vous aurez ma haine ». D'autres sont dans une démarche et une optique très différente. Il faut respecter, évidemment, chacune de ces attitudes. Mais qu'est-ce qu'elles attendent, de manière générale, ces familles aujourd'hui, Sandra ?
Alors sur cette peine maximale requise par le parquet, donc cette perpétuité avec une période de sûreté incompressible, il y a vraiment des avis tout à fait divergents. Il y a d'abord, on peut rappeler les propos d'Olivier, rescapé du Carillon, qui estime qu'il faut enfermer à vie Salah Abdeslam, je cite, le séparer de la société qui a souffert et continue de souffrir parce que la société doit se protéger, dit-il. À l'inverse, pour Georges Saline, le père de Lola, décédé au Bataclan, eh bien, cet homme retient que si Salah Abdeslam a exprimé des regrets pour la souffrance des victimes, il a refusé de condamner l'État islamique et les attentats, mais il ne souhaite pas l'application de cette peine maximale. Je ne suis pas pour qu'on enterre les gens vivants, a-t-il expliqué. Je suis pour qu'on laisse une place à l'espoir, à l'éducation, à la réinsertion. Et puis, il y a ces mots de Bruno que vous avez écouté tout à l'heure, rescapé du Bataclan, qui espère qu'ils seront jugés pour ce qu'ils ont fait, qui constate que les assassins eux-mêmes ne sont pas dans le box. Et c'est ce que Prouprou a clamé Salah Abdeslam très tôt dans ce procès. Il estime qu'il serait incompréhensible de le condamner à la peine maximale, comme celui qui a commandité ces attentats, par exemple, Oussama Attar, contre lequel le parquet a requis cette même peine de perpétuité incompressible.
Sandra, il y a aussi la question de l'après, parce que c'est aussi, quoi qu'on en pense, une page qui va se refermer après le verdict pour les familles. Ça peut être aussi un vide abyssal à combler.
Oui, effectivement. Alors, ce procès, c'était une attente, la ligne d'horizon pour les victimes et les familles de victimes depuis les attentats. Ça a été aussi une épreuve pour eux. C'est 10 mois où il a fallu retourner dans l'enfer de ce qu'ils ont vécu ce 13 novembre 2015. Et pour certains, ils ont mis complètement entre parenthèses leur vie pendant ces 10 mois de procès. Mais il y a aussi toute une communauté qui s'est créée, des liens très forts qui se sont liés entre les victimes, les parties civiles, mais aussi avec certains avocats et même des avocats de la défense. Il y a aussi ces liens qu'ont pu tisser certaines parties civiles avec les 3 accusés qui comparaissaient libres. D'ailleurs, ils les ont emmenés de nuit, une fois, se rendre devant le Bataclan sur la stèle du souvenir. Et donc, il y a cette peur du vide après ce procès. Il faut inventer l'après. C'est ce qu'a expliqué le président de Life for Paris. Il explique qu'il faut maintenant se défaire un petit peu de ce statut de victimes, s'en défaire davantage pour débuter une vie différente. Il ne faut pas exclure qu'il y ait une suite judiciaire à ce procès, puisque les accusés peuvent toujours faire appel ainsi que le parquet. Et puis, donc, pour gérer ce passage, cette transition vers l'après-procès, eh bien, le numéro d'assistance aux victimes et aux parties civiles restera en vigueur jusqu'à cet été.
Merci beaucoup Sandra, en duplex de la Cour d'assises spéciale de Paris. On va vous retrouver tout au long évidemment de l'après-midi sur notre antenne et au moment très important du verdict. Georges Fenech s'y appelle, c'est reparti, toute la machine est repartie.
Absolument, ça repart dès le point de départ, il faut tout recommencer, c'est-à-dire voilà, un procès depuis la personnalité, les faits. Ce ne sont pas d'ailleurs les mêmes juges, hein, puisque ce sont les juges de la Cour d'appel qui vont juger. Voilà, simplement une toute petite réflexion. Je suis un peu surpris quand même de ce débat sur la peine perpétuité, la perpétuité incompressible dans ce procès. À ma connaissance, ce débat n'a pas eu lieu, par exemple, pour Pierre Bodin, dit Pierrot le Fou, qui a été condamné à cette peine, ou pour Guy Fourniret, qui a été condamné aussi à cette peine. J'ai pas le souvenir qu'il y ait eu un débat. Peut-on condamner un homme à une telle peine ? Et là, pour une affaire aussi grave, aussi barbare, etc., Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire que des familles, des victimes, comme Georges Saline, le père de Lola, aient ce raisonnement. C'est admirable. Et savez-vous qu'il y a des associations de victimes du terrorisme, dans la plus grande discrétion, qui vont dans les prisons, les rencontrer, les terroristes, pour engager une sorte de compréhension et de dialogue, etc. Moi, je trouve ça admirable. Je ne sais pas si je serais capable de le faire. Si ça me touchait personnellement.
Oui, est-ce
qu'il y a une résilience extraordinaire.
Mais est-ce qu'il ne doit pas rester, dans le fond, aussi un noyau incompressible, d'incompréhensible, en quelque chose, en quelque sorte. Est-ce qu'on peut prétendre, si vous voulez, avoir une compréhension parfaite de quelque chose qui est le mal, qui nous échappe quand même complètement. Je reparle du nazisme sans vouloir faire l'équivalence. Si vous voulez, il y a eu des milliers de livres, des milliers de travaux sur le nazisme. Il y a toujours quelque chose, un noyau dur, incompressible. Et pourtant, je me rappelle une expérience qui avait été tentée avec des enfants. Alors là, c'était des enfants de déportés qui étaient allés parler avec des enfants de nazis. Voilà. Je ne sais pas moi non plus si j'en aurais été capable. Oui. Mais voilà.
Un autre rescapés du Bataclan, c'est Victor Rouard. C'est important d'écouter leurs mots. Vous avez vu que ce sont des attitudes, des visions différentes. Écoutons-le. Dans quelques instants, c'est bon.
Ça avait commencé par une provocation en rappelant qu'il reste un soldat de l'État islamique, qu'il avait été, je crois, alors je ne sais plus quels étaient les mots exacts, mais qu'il n'était pas un chien, qu'il avait été plus ou moins traité comme ça. Je pense qu'il ne faut pas être dupe de tout ça. Ils ont rappelé, voilà, que globalement, ils adhéraient toujours à la même idéologie, l'islamisme. J'ai du mal à croire qu'ils puissent faire acte de repentance, même s'ils ont, pour certains, voulu s'excuser. Je pense que la Cour ne doit pas être dupe.
Victor Rouard, très différent, vous entendez des autres. Je me souviens, je l'avais reçu à la radio et lui était dès le départ, mais jamais, ça ne pourra pas changer. C'est une idéologie ancrée en eux, c'est une conviction et il faut la combattre, etc.
Voilà. Ah, vous savez, la déradicalisation, ça n'a pas donné de très brillants résultats. Mais il me semble que vous allez me corriger qu'il y a encore une zone d'ombre. Sur Abdeslam, il a eu deux versions sur le fait que sa ceinture, il ne l'avait pas utilisée. Dans un cas, il a dit « j'ai pas voulu tuer », il l'a dit un jour. Hein. Et dans l'autre, elle n'a pas marché.
C'est son système de défense, puisqu'il
dit « je
me suis désisté, donc je n'ai pas voulu ». En réalité, quand vous connaissez le dossier, les experts qui ont examiné ce gilet ont parlé d'un dysfonctionnement de la mise à feu.
Donc, d'accord. Voilà.
Et quand les enquêteurs ont fouillé les boîtes mail, il le dit bien dans ses mails, Allah n'a pas voulu, etc. C'est-à-dire qu'en réalité, ça n'était pas de sa volonté de ne pas le faire exploser.
Peut-être qu'il
et il l'a même confié à ceux qui l'ont ramené dans sa fuite de Paris jusqu'en Belgique. Il leur a dit ça n'a pas fonctionné.
Ah oui, parce qu'il ne voulait pas passer pour un lâche.
Je ne pouvais pas dire autre chose.
Les titres, s'il vous plaît. C'est News Info avec Audrey.
Le sommet de l'OTAN à Madrid démontre l'agressivité de l'Alliance à l'égard de la Russie. C'est ce qu'a estimé le vice-ministre russe des Affaires étrangères, qualifiant l'élargissement à la Finlande et à la Suède de profondément déstabilisateur. Les surveillants de la prison de Saint-Quentin, Falavier en Isère, tirent la sonnette d'alarme. Des individus lancent des colis depuis l'extérieur de l'établissement pénitentiaire à destination des prisonniers. À l'intérieur de ces colis, des stupéfiants, de l'alcool ou encore des armes blanches. Depuis le 1er janvier, 3400 colis ont été projetés par-dessus les grillages. Et puis à Rome, la villa la plus chère du monde est à nouveau mise aux enchères. Avec deux premières ventes, la villa Aurora n'avait pas trouvé preneur. Ce bien abrite une fresque unique du peintre Caravage. La mise à prix est de 471 millions. La villa ne trouve pas d'acheteur pour le moment.
Ah, ça, c'est une information. Je vous remercie, Audrey. Je sais que ça va vous intéresser. Bah oui. Je voyais que vous étiez en train d'être sur le marché de la Villa Aurora.
Je regardais si Georges réagissait plus vite que moi.
J'ai pas mon chéquier sur moi.
Ah, c'est dommage. Non, ne me dites pas que vous faites partie de ceux qui n'ont pas le chéquier quand il fait sortir, là.
Enfin, il y a l'euro-million ce soir. Hein, il y a l'euro-million ce soir.
C'est pas... Caravage, il n'y en a pas beaucoup, vous savez.
Non.
Il y en a très peu et c'est un des plus grands peintres.
On remercie CNews de cet investissement pour nos prochaines vacances.
J'avais d'autres sujets à vous soumettre, mais on n'a pas le temps, mais je voudrais quand même en parler parce qu'hier, chaque jour, les caméras de CNews, on va dans un quartier de Paris pour constater la propreté, la sécurité.
Le vivre ensemble.
Exactement. Alors hier, on était au Champ de Mars, on s'est déplacé pas très loin, hein, à quelques, même pas un kilomètre, au Trocadéro. Insécurité permanente, on n'a pas le temps. Mais je disais à chaque fois, pour l'image de la France, de notre pays, des touristes qui viennent et qui ont envie de prendre une photo là-bas au moment où ils vont prendre la photo, hop, subtiliser leur portable, leur portefeuille, etc. Eh oui, et voilà.
Les supporters anglais.
C'est la faute aux Anglais. Bon, on va finir. Bon, merci. Merci Georges Fenech. C'était un plaisir de vous avoir autour de cette table.
Merci Carmen à vous de votre invitation.
Voilà, avec Elisabeth Lévy. Cette disposition, vous
nous, avez aujourd'hui. On va à la buvette de l'Assemblée après. Hein.
N'abusez pas trop, si je peux me permettre, Elisabeth, avec modération. Bon après-midi.
On va boire
des
cafés, j'espère, à la buvette
demain,
de l'Assemblée.
À demain, bien sûr, le café. À demain.
Tout de suite, Clélie Mathias, des experts et de l'actu, la belle équipe.